Ce soir, l'émission Connaître la suite, on a le plaisir de parler avec Philippe David et on reçoit également Maître Julie McCann. On se retrouve dans quelques minutes sur les ondes du XM156. Vous écoutez l'émission Connaître la suite. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'émission Connaître la suite sur les ondes du XM156 et du www.radiochoc.fm. Ça nous fait grand plaisir de vous accueillir ce soir. C'est déjà presque la fin pour cette saison printanière, donc il ne reste plus que 3 émissions à l'émission Connaître la suite. Déjà les pincements au cœur, même si ça va être des vacances, je vous avouerai, méritées dans notre cas. On a toujours un petit pincement, sachant qu'il ne reste que quelques émissions pour partager encore avec vous ces idées qui nous passionnent, donc cette promotion des idéaux de liberté et de responsabilité individuelle qui nous tiennent tant à cœur. Et je vous dirais que pour nous, c'est quelque chose quand même de gratifiant plutôt le fait d'avoir avec vous tout au long de cette première saison de Connaître la suite, avoir pu partager tous ces discours, ces chroniques, toutes ces choses-là qu'on a pu revoir ensemble. Et bien honnêtement, ça a été pour nous aussi le tremplin qu'on attendait pour justement prendre notre air d'aller. Et je vous dirais que comme ça, de devoir mettre fin à tout ça, c'est là où on a toujours un petit regret, mais c'est sûr que on va tout faire pour être de retour l'automne prochain, évidemment sur les ondes du XM156. Et tout ça, si tout se passe bien, ça devrait être le cas. Je vois mon ami Danny qui présentement essaie de contacter notre premier invité. On a deux invités pour vous ce soir et bon, c'est des choses qui arrivent. On est en direct, live, comme diraient certains, et c'est des choses qui arrivent. Donc, Danny qui s'efforce à l'instant de contacter notre premier invité. Ce que je peux faire, c'est brièvement vous parler d'un petit sondage qu'on a mené de façon impromptue sur notre page Facebook. Parce que pour ceux qui le désirent, c'est toujours facile de nous rejoindre. Je vous dirais, la façon la plus efficace, c'est de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Soit que vous êtes des abonnés à Twitter et que vous aimez le média en question et que vous nous ajoutez dans votre réseau de connaissances. Donc, je répète, sur Twitter, notre nom, c'est Connaître Suite. Donc, on a dû tronquer et enlever la. Donc, c'est Connaître Suite en un mot. Et pour ce qui est de Facebook, venez et inscrivez-vous à notre groupe qui s'appelle Connaître la suite. Et là, c'est ça, la semaine passée, suite à notre à notre dialogue, notre discussion intense à moi et à Danny, où lorsqu'on a un peu partagé nos états d'âme sur l'avenir de la droite, donc la cause, nous on appelait ça la cause, comment on peut faire avancer la cause de la droite au Québec. Et là, on a lancé un débat d'idées à l'intérieur de l'émission, et Danny prônait l'approche plus pédagogique pour faire avancer la cause. Et de mon côté, je préconisais une approche plus stratégique, mais comme on l'avait discuté, je pense que ça veut pas dire que si on a une approche pédagogique, on ne fait pas de stratégie, et l'inverse est aussi vrai. Et on a décidé de lancer un petit sondage comme ça maison pour tâter le pouls un peu de l'auditoire, et je remercie tous ceux qui sont venus répondre. Et c'est bien intéressant de voir justement ce que les gens en pensent quand on y va comme ça d'état d'âme et qu'on vous partage un peu nos façons de voir les choses. Et je vous dirais que Danny l'a emporté haut la main avec son approche plus pédagogique. Donc, 20 personnes ont préféré cette approche. Donc, les gens avaient le choix entre pédagogique, stratégique ou, toujours la foutue réponse indécise, là. Mais je vous dirais que les gens ont opté pour plus l'approche pédagogique. Il y a certains, et parce que ça, on peut le faire sur Facebook, on peut ajouter des réponses. Il y en a qui ont ajouté le volet cohérence, c'est sûr, hein? Que ce soit une approche pédagogique ou stratégique, bon, la cohérence, on y tient. Donc, beaucoup de gens ont voté pour ça, ce qui arrive en deuxième position, en fait. Et le côté stratégique, oups, là, je peux pas dire que j'ai de nombreux appuis.
Pour l'instant.
Pour l'instant, donc 6 personnes.
Si vous pensez que la pédagogie doit aller plus loin, allez voter.
Ensuite, il y en a qui ont répondu « c'est embêtant ». Bon, il y a quelqu'un qui est venu inscrire « il ne faut pas faire avancer la cause de la droite ». Bon, OK. la droite n'est pas progressiste, donc heureusement, si elle n'avance pas, qu'elle n'avance pas. Mais en tout cas, il faut comprendre que là-dessus, on peut ajouter aussi toutes sortes de réponses et rien du tout. Donc, ça, c'est très marginal en termes de vote. Mais écoute, je pense que ton approche a la faveur populaire, si on peut dire ainsi, Danny. Et je vous invite d'ailleurs à aller télécharger nos podcasts, parce que là, peut-être, vous écoutez ça, vous dites, c'est quoi cette histoire de pédagogique versus stratégique? Mm-hmm. Allez écouter le podcast de la semaine passée, toujours disponible, soit que vous passez directement par notre site internet, qui est leconnaitrelasuite.com, ou soit que vous allez au podomatique.connaitrelasuite.com, et là, vous pouvez télécharger toutes les émissions de la saison. Donc, aujourd'hui, c'est la 14e, non, la 16e, en fait, non, la 15e. Je vais finir par toutes les dire. C'est la 15e et il va y avoir 17 émissions qui ont été faites pour cette édition Britannia. Et comme j'ai dit, on va se donner rendez-vous pour l'automne prochain et on va arriver sûrement avec une version 2.0 de l'émission. On est dans un processus comme le réseau Liberté Québec aussi. On veut pas avoir le statu quo. Nous, on veut. Et puis on est très sévère, je pense, moi et puis Danny, là-dessus. Là, on veut que ça monte. On veut pas que ça descende, surtout, ça c'est sûr. Mm. Mais on veut pas que ça stagne non plus. Ouais. Quitte à revoir un peu le plan d'affaires puis la façon qu'on fait nos choses, mais c'est sûr qu'on veut que ça monte. Mm.
J'ai vu cette semaine que ça a l'air que 2.0, là, c'est out.
Ouais, c'est vrai
ça.
Que c'est
je sais out. Pas si t'as vu ça.
C'est vrai. Ben, c'est un peu galvaudé.
C'est comme les commerces qui s'appellent 2000.
Ah ouais, effectivement.
On est rendu en 2011.
c'est un peu poche, hein, après, justement, quand tu choisis patente, machin, truc, 2000.1.
Ouais, c'était bon en 1980. Ben, je pense qu'on va falloir aller avec ton dossier.
Oh ouais, directement.
Incapable de la rejoindre.
Incapable. Ben, je vais débuter avec mon dossier.
Ouais. Parce je vais continuer pendant ce temps-là.
Ben, t'as assez haut, parce que, puis je t'invite à intervenir. Parce que c'est en lien un peu avec, je dirais beaucoup avec le sujet qu'on voulait traiter avec notre premier invité. Mais en fait, moi, j'ai poussé la réflexion et là, personne va tomber en bas de sa chaise et je suis désolé pour ceux qui disent « Ah non, on parlera pas encore de la commission parlementaire, on parlera pas du Colisée ». Je vous dirais que c'est un peu un incontournable, puis on va essayer de donner un angle un peu différent à ça. Et je vous dirais que justement, de quelle façon on peut donner un angle différent? Ben, moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et je vous dirais bien honnêtement, je le sais que la commission parlementaire existe, c'est pas la première fois qu'on en fait mention, qu'on l'utilise, qu'on voit des clips à la télé, on sait que ça existe. Mais je me suis posé des questions fondamentales, à savoir depuis quand ça existe, c'est quoi la mission de cette commission-là. Parce que je sais pas, j'ai l'impression, puis j'ai peut-être même déjà pensé ça par le passé, il y en a peut-être qui pensent que c'est un tribunal, que les gens font une plaidoirie, puis que là, ils vont rendre un verdict. Et non, vous allez voir là, dans les informations que je vais vous donner, que c'est pas le cas. Donc, Le but de ma chronique, en fait, c'est qu'ensemble, bon, l'auditoire et moi, on découvre, et Danny, on découvre un peu les rouages de la commission parlementaire. C'est quoi son but, ses origines, et où on va avec ça, c'est quoi sa mission, dans quoi ça s'inscrit tout ça, puis comment c'est formé, puis de quelle façon on peut aller faire des représentations. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il existe, et on le sait que l'Assemblée nationale, si il y a un des volets du gouvernement du Québec qui est assez fort, je dirais que c'est l'Assemblée nationale, hein, que ce soit la chaîne qui est mise à la disposition des gens à travers bon les réseaux de câbles de distribution. Bon, vous avez accès à partir de la maison, malgré que je crois que les gens qui sont avec Star Choice et peut-être Bell Express vous aussi, mais Star Choice, je peux vous le confirmer, cette semaine, j'ai fouillé et la chaîne n'est pas disponible.
Non, oui.
Par contre, vous êtes avec Vidéotron, c'est sûr, au Québec, on sait que majoritairement les gens sont avec Vidéotron. Vous avez accès à cette chaîne, mais sur le site Internet, de toute façon, de l'Assemblée nationale, vous avez accès à toutes les archives, puis pas juste de la commission parlementaire, il y a beaucoup d'archives qui sont là, beaucoup de documents. Et bon, ben la commission parlementaire n'en fait pas fi de cet enrobage. Bon, on ne dira pas du web 2.0, là, mais on va dire des technologies de l'information, de la mise à disposition des documents. Parce que des fois, sur certains ministères, on sent que ça fait un peu plus... bon, je ne veux pas dire pic-pic, là, comme on dirait en bon québécois, mais ça, c'est un peu plus ordinaire. Là, on cherche plus la documentation. Là, c'est assez facile de s'y retrouver. Donc, moi, en fait, ce soir, quand je vais discuter de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec, je vais me référer à un document qui s'appelle « Les commissions parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec », qui est un document assez bien fait, assez aéré. Là, bon, plusieurs pages, il y en a 35 au total, puis ça se lit bien, je vous dirais. J'ai passé ça assez rapidement. Donc, là-dedans, ce qu'on nous explique au départ, évidemment, on fait l'histoire, l'origine de la commission parlementaire. Donc, on dit que c'est quelque chose qui est là depuis fort longtemps dans le paysage de l'Assemblée législative. En fait, on dit que c'est dès les premières années, pour voir quasiment au lendemain de la création de l'Assemblée législative, qu'on a vu apparaître à l'époque ce qu'on appelait en fait des comités spéciaux. Et on disait qu'à l'époque, c'était d'abord et avant tout pour voir des questions d'organisation interne à l'Assemblée. Donc, c'était une commission spéciale, mais qui se vouait une commission pour revoir un peu les règles, les façons de faire à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, c'était pas vraiment ouvert au public, c'était pas vraiment pour faire ce qu'on fait aujourd'hui avec ces commissions parlementaires. Et là, en fin de compte, on a tenu ça un peu comme ça, je vous dirais, pendant de nombreuses années, pendant près de 120 ans. Et c'est au tournant, et là, écoute, un marqueur au Québec, hein, le modèle québécois, on sait qu'il est apparu au tournant des années 60 et 70. Donc, c'est vraiment à partir des années 70 que il y a eu une bonne mise à niveau. Bon, en anglais, on dit un upgrade, là, mais une bonne mise à niveau de l'Assemblée nationale. En général et surtout de sa commission parlementaire. Donc, on a commencé à redéfinir les mandats un peu de la commission, on a commencé à créer beaucoup de commissions parlementaires, mais c'était plus ou moins structuré, c'était une extension un peu des commissions spéciales qui pouvaient exister. Et tout ça, je vous dirais que ça allait accoucher là, autour des années, bon, on dit en fin de compte, en 84, là, c'est là qu'il y a eu une première réforme, puis en 2003-2004, et aussi, bon, il y a eu plusieurs réformes à l'Assemblée nationale, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais tout ça pour dire qu'au tournant des années 80, 90, et au tournant des années 2000 aussi, on a raffiné un peu la mission, on a structuré davantage les commissions parlementaires. Si je vous dirais, et je te pose la question, Danny, combien de commissions parlementaires tu crois qu'il existe? Ou il y en a une seule pour toi, c'est toujours la même? Comment tu penses qu'il y en a?
Je sais pas combien, ouais, là, bonne mais question, hein. Ouais, il y en a plusieurs reliés à différents ministères.
En fait, c'est ça. Il y a des commissions qu'on appelle sectorielles. Il y en a 9 commissions comme ça. Et si je vous les nomme, en fin de compte, on parle des commissions sectorielles, je les ai ici, la commission de l'agriculture, des pêcheries, d'énergie, des ressources naturelles, la commission de l'aménagement du territoire, la commission de la culture, de l'éducation, la commission de l'économie et du travail. Donc, ainsi de suite, il y en a 9 commissions. Il y en a une qui s'appelle la commission des finances publiques. Et chacune de ces commissions-là, on leur a attribué des compétences. Donc, évidemment, si on parle de la commission des finances publiques, ses compétences, c'est au niveau finances, budget, administration du gouvernement, fonction publique, revenus, services, approvisionnement et régime des rentes. Donc, aussitôt qu'on a une question, une commission à structurer en regard de ces compétences-là, bien, c'est là qu'on va activer une de ces 9 commissions-là qui sont sectorielles. Donc, ces commissions-là ont des membres. Donc, et chacune de ces commissions-là est formée, tout dépendant si on retrouve un député indépendant ou appartenant à un autre groupe parlementaire. Donc, j'aimerais avoir une définition d'un autre groupe parlementaire, mais là, par manque de temps, j'ai pas été voir c'était quoi, parce qu'on dit « ou un autre groupe parlementaire ». Mais, somme toute, on peut retrouver, en moyenne, je vous dirais, à peu près 10 députés. Donc, il y a 6 députés du groupe parlementaire formant le gouvernement et 4 députés de l'opposition officielle. C'est à peu près ce qu'on trouve. Donc, je présume que si on dit un député indépendant ou appartenant à un autre groupe parlementaire, ben c'est un peu le cas d'un Amir Kadir, parce qu'on s'entend, il fait pas partie de l'opposition officielle, donc à ce moment-là, j'imagine qu'il joue ce rôle-là. Donc, les membres d'une commission, comme j'ai dit, il y en a 9 sectorielles, ben eux, ils ont un mandat pour 2 ans. Donc, on les assigne, soit qu'un député participe à la commission sectorielle sur la finance, un qui va participer à l'économie, à celle sur l'économie, le travail, et ainsi de suite. Donc, ces gens-là sont attribués à ces commissions-là, donc ils ont un mandat et ils sont basés de façon permanente là, sur ces commissions-là. On retrouve aussi des commissions qu'on appelle multifonctionnelles. Donc, c'est-à-dire que chacune à l'intérieur de ses compétences exerce aussi des mandats parlementaires, soit l'étude de projets de loi, des crédits budgétaires, le contrôle, ainsi de suite. Donc, ça, il y en a quelques-unes aussi. Et on retrouve, au niveau de ces commissions-là, d'autres commissions qui, elles, sont permanentes. On retrouve la commission de l'Assemblée nationale et la commission de l'administration publique. Donc, au total, si on prend les commissions parlementaires permanentes, on en retrouve 9 sectorielles et 2 permanentes. Okay? Et là, on peut en former des extraordinaires, comme je mentionnais, là, à l'occasion, quand on veut traiter de sujets plus larges, donc ce qu'on appelle des multifonctionnels. Ces commissions-là, là, vous allez me dire, mais c'est quoi leur mandat? Moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont droit de vie de mort? Qu'est-ce qu'ils font, en fin de compte? Et on nous dresse, dans le document que je vous parle, là, vraiment un tableau assez complet où là, on nous dit, bon, telle commission, vous regardez tel dossier. Et soit dit en passant, à travers ces commissions-là, il y a un processus régulier qui revient. Chaque ministère, à chaque 4 ans, doit se présenter devant une des commissions pour faire la reddition de compte, pour présenter ses orientations, et ainsi de suite. Là. Je ne sais pas pourquoi qu'on a imbriqué ça là-dedans, mais quand j'ai vu les statistiques, je m'aperçois que les commissions, en fait, c'est pas extraordinaire. Il y en a à tous les jours, voire même il y a plus qu'une commission par jour. Vous allez voir là, dans les chiffres, là, puis on nous fournit même l'horaire, les dates. Sur le site Internet, vous avez tout ça. Hein. Si vous voulez vous constituer un dossier et aller le présenter, là, facilement, si vous êtes un lobbyiste ou si vous êtes un groupe de pression, vous allez pouvoir trouver l'information. Donc, c'est ça. J'en reviens à mon tableau parce que on retrouve un peu justement les types de mandats de la commission sectorielle. Donc, on dit dans les mandats confiés par l'Assemblée, il va y avoir l'étude de projet de loi. Donc, ce qu'on vit présentement, c'est ça. C'est une commission parlementaire qui étudie un projet de loi. Elle dira pas si c'est oui ou c'est non. Non, elle peut faire des recommandations, ainsi de suite, mais ça reste l'Assemblée législative qui va prendre les décisions. Donc, ce que vous voyez actuellement à la télé, et c'est normalement terminé en date d'aujourd'hui, les représentations ont été faites, c'est une commission qui... Et là, c'est là qu'on apprend qu'il y a des commissions qui sont faites soit de façon publique, comme ça, ou à huis clos, ou privé, ainsi de suite, tout dépendant du type de commission. Là, quand c'est de la poutine interne, on fait pas ça grand public. Là. Mais... par choix, là, puis c'est les orientations qui sont prises par le président qui décide. Et là, ben c'est ça. Ça, c'est un des mandats qu'on peut confier, l'étude de projet de loi. Il y a l'étude des crédits budgétaires, l'examen de toute matière ou audition publique, l'examen des orientations des activités d'organismes publics, l'étude d'une pétition, l'étude de toute matière d'intérêt public, l'étude de rapport, l'étude de mise en œuvre, l'étude de règlement. On fait beaucoup d'auditions aussi. Ça m'a surpris. Des auditions avec le directeur général des élections, audition du protecteur du citoyen, audition du vérificateur général. Donc, somme toute, puis j'ai highlighté, là, excusez le terme anglais, mais j'ai souligné les mots-clés et je retrouve soit, en fait, il y a 3 familles, là, ça se regroupe soit en études, examens ou auditions. vous allez me dire, et c'est pas des, et si vous en conviendrez, on parle pas de prise de décision, on parle pas de politique, d'orientation. On parle d'études, d'examens. Et là, je veux pas remettre en question l'Assemblée législative qui a mis en place cette commission-là, mais est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle fait avancer les dossiers vraiment? Mm-hmm. Ça, je vous laisse en juger. OK? Puis, pour que vous preniez votre prise de position, pour que vous fassiez votre prise de position, ben, j'ai emporté des extraits. OK? Puis encore là, fouillez, si ça vous le tente, là, toutes les archives sont là, ouais. des commissions parlementaires. Ouais. Moi, je suis allé avec, YouTube, on trouve des choses, là, je vous dirais que c'est un peu inquiétant dans certains cas, dans d'autres cas, ça l'est moins. Puis j'ai toutes sortes de choses. Première chose, puis encore là, tirez vos conclusions après, puis je veux pas influencer vos prises de décision. Je me suis posé la question de quelle façon les députés qui participent à ces commissions-là sont préparés, tu sais. Parce que des fois, on le voit comme hier, les gens arrivent avec le document, là, tu sais, il est pas nécessairement publicisé ou je sais pas de quelle façon, j'ai pas d'informations sur les délais précis, mais j'ai pas l'impression que les documents, là, les gens qui sont autour de la table les ont eus, là, longtemps d'avance, là, tu sais. Des fois, j'ai l'impression que c'est très chaud, là. J'ai l'impression que les présentations PowerPoint, là, d'après moi, il y a eu du peaufinement 5 minutes avant, là. Et je vous donne un cas, je veux pas tirer sur la personne, mais excusez, au Québec, on a des fois des gens qui vont au-devant des choses. Et je parle ici de Pierre Curzi, qui, dans le cas d'une commission parlementaire sur l'éducation, donc, puis on le sait, ça a fait couler beaucoup d'encre, là, hein, les écoles anglaises versus les écoles françaises. Et là, je veux pas influencer encore là votre prise de position, mais quand on écoute l'extrait, on voit que ça manque un peu de préparation, et même d'écoute, hein, parce que les gens, quand ils vont s'asseoir là, bon, ils donnent beaucoup d'éléments d'information. Soit que les gens sont déconcentrés, ou soit qu'ils sont pas préparés, mais je me dis, quel est le niveau de préparation? On va écouter l'extrait, vous en jugez. Je vais le couper là à un moment donné, là, mais écoutez ça. Là. Et là, ce qu'on entend, c'est Pierre Curzi qui argumente avec celui qui a présenté, là, qui vient de terminer sa présentation avec beaucoup de chiffres, beaucoup de documents.
Donc, vous savez pas précisément ce qui arrive avec vos élèves après qu'ils ont passé par le primaire anglophone. Ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas de statistiques claires. Vous ne savez pas si certains de vos élèves vont passer du côté du secondaire public anglophone, par exemple. Est-ce que vous avez aucun chiffre là-dessus?
Monsieur le Président, nous avons présenté les chiffres de juin 2009, où nous avons dit justement que sur les 134 élèves qui ont gradué en sixième année, en juin 2009, 132 se sont retrouvés dans des établissements francophones, oui. Publics et privés.
La majorité continue donc au privé en français. Public et privé. OK. J'étais inattentif sans doute à ce passage-là. Mais rien ne dit que vous voulez pas être des écoles passerelles, si on comprend bien, mais rien n'empêche, en fait, comment on présenterait ça?
On voit que le monsieur, tu sais, c'est ça, comment on présenterait, je sais pas s'il y a un agenda politique derrière ça, et ça, c'est un autre sujet de discussion, mais vous voyez, là, tu sais, il dit au gars, vous savez pas où s'en vont les élèves après leur sixième année, puis le gars dit, c'est parce qu'on vient de déposer un document de 2009 qui dit que sur 136, il y en a 132 qui sont allés dans une école francophone, tu sais. Fait que soit qu'ils écoutaient pas ou, tu sais, tu comprends, il y avait... Puis je pose la question, Pierre Curzi étant ce qu'il est, puis peut-être qu'il y a des visées politiques derrière ça, mais à quoi on le paye s'il est autour de la table, puis il dit qu'il y a des moments d'inattention comme ça ouvertement, puis... J'ai arrêté l'extrait et allé sur YouTube, donc l'extrait s'intitule « Pierre Curzi se fait mettre en boîte » parce que il y a de la misère à argumenter, tu sens qu'il n'y a pas de chiffres, il y a beaucoup de difficultés. C'est une question que je me pose, parce que ça coûte cher. Vous allez voir tout à l'heure, je vais donner les chiffres, il y en a de nombreuses. Puis c'est des députés, là, ça ne gagne pas le salaire minimum, je m'excuse.
Quand ils sont attitrés à, justement, à des commissions, ça lui donne un...
Un petit bonus.
Un salaire supplémentaire.
Un bonus. J'en ai un autre. Celle-là, encore là, c'est assez... c'est public, là. On a accès à l'information. Je connais pas personnellement, et Dave Turcotte, là, je suis pas assez maniaque de la scène politique québécoise pour vous dire si c'est un bon, un mauvais, ou ainsi de suite. Mais comme j'ai dit, c'est pas le but. Mais là, Dave Turcotte, lui, il s'enferge un peu. Ils sont en train d'étudier un projet de loi. Puis là, c'est... j'aimerais ça voir. C'est le projet de loi 67, en passant. Puis là, on s'astine sur des mots, des virgules, puis à chaque fois qu'on parle, on dit qu'on veut faire un amendement. Tu sais, on dit pas une modification ou je veux faire une nouvelle version ou une révision. On utilise le mot amendement. Puis là, maintenant, on se perd dans les amendements. Puis là, on ajourne pendant 5 minutes pour mettre à jour le document. On en revient. Puis là, on dit, non, on n'aurait pas dû mettre la phrase là. On aurait dû... Je vous laisse écouter. Encore là, je vous laisse décider si, pour vous autres, c'est ce qui fait avancer le Québec, puis c'est là-dessus qu'on va. Puis comme je vous dis, gardez les mots que j'ai donnés tantôt, études, examens, tu sais, on prend pas des décisions, c'est pas un go, no go, là. C'est pas modifiez-moi le texte, là, puis je mets ça dans l'application, puis demain, le projet de loi, il est approuvé, puis on l'applique, là, tu sais, on est loin de ça. Écoutez ça encore.
Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le ministre doit au plus tard, là, indiquer ici la date qui suit de 5 ans la date de l'entrée en vigueur du présent article, et par la suite, tous les 5 ans, veillez à ce que l'application de la présente loi fasse l'objet d'un rapport indépendant. Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l'Assemblée nationale ou s'il ne siège pas dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Commentaire. Il s'agit d'une disposition obligeant le ministre à obtenir un rapport indépendant tous les 5 ans sur l'application de la présente loi.
Monsieur le député de Marie-Victorin ou Jean Saint-Jean qui veut lancer la balle.
Vas-y.
Député de Saint-Jean.
Merci, Monsieur le Président. On a reçu le mémoire de l'Ordre des psychologues du Québec qui, j'aimerais vous citer là, un passage de leur mémoire à la page 16. Que l'article 100 du projet de loi soit modifié pour préciser que, au moins au terme du premier quinquennat, l'évaluation devra comprendre un forum où les parties prenantes auront l'occasion de se faire entendre. Ce forum pourrait prendre la forme d'une commission parlementaire, possiblement après la production et la diffusion d'un document d'évaluation par une source indépendante. La loi pourrait aussi spécifié dès maintenant que l'auteur du rapport indépendant devra procéder à une large consultation auprès des parties prenantes, en particulier les ordres professionnels pertinents. Donc, j'aimerais entendre de la part du ministre son opinion sur cette recommandation de l'Ordre des psychologues.
Monsieur le ministre.
Je suis pas fermé du tout à l'idée, mais j'aimerais peut-être qu'on suspende quelques minutes le temps que je discute avec nos juristes pour savoir l'implication, mais moi,
avant l'extrait où Dave Turcotte demande de faire la modification au texte, c'est que là, on apporte une idée qui est lancée par un mémoire qu'on avait reçu devant la commission, et là, on ajourne, parce que là, le ministre peut pas se prononcer, il demande à ses avocats, et là, c'est sa réponse.
Monsieur le Président, je demanderais à une de nos juristes de venir nous, peut-être de nous expliquer là le mécanisme, le fonctionnement, pour que nous l'apprenions tous en même temps.
Encore une fois, Maître Champagne, si vous pouvez vous bien identifier pour la fin de l'enregistrement, et je présume qu'il y a un consentement pour permettre la participation de Madame Champagne dans notre délibération. Consentement. Merci beaucoup.
Oui, bonjour, Daniel Champagne, Direction des affaires juridiques au ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, ce que l'Ordre des psychologues demande, c'est possible en vertu de l'article, parce que le rapport est déposé à l'Assemblée nationale et lorsque ce sera fait, une commission peut convoquer, en fait, des auditions là, pour discuter de ce rapport.
C'était peut-être Saint-Jean.
J'entends la réponse. Dans ce cas-là, moi, j'aimerais peut-être déposer un amendement qui préciserait davantage cette disposition-là, qui pourrait être inscrite dans la loi et que ce serait clair pour tous. Donc, je peux faire la lecture de l'amendement que je souhaite déposer. Donc, à l'article 100, ajouter à la suite du deuxième alinéa de l'article 100, après les mots « ses travaux », le texte suivant. Le rapport indépendant doit être étudié par la commission compétente de l'Assemblée nationale du Québec.
Vous voyez, là, c'est ce que je voulais démontrer, c'est que là, il demande d'ajouter quelques mots, puis là, on ajoute, on revient, puis là, je pourrais faire écouter l'extra complet, ça dure 39 minutes, où là, on se relance la balle, puis là, c'est des amendements par-dessus amendements, là, on dit, on va annuler l'autre amendement qu'on vient de faire pour l'écouter. C'est là que je me dis, ça sera peut-être pas plus simple, là, de s'asseoir avec une adjointe administrative, une secrétaire, dire, on peut-tu reviser le texte ensemble? Parce que là, toutes les fois, le ministre, il parle pas. Il fait venir son juriste, puis là, son contentieux, tout le temps, qui est à côté de lui. Tu sais, en fait, tu vois que derrière eux, puis dans tous les extraits que j'ai vus, il y a beaucoup de gens. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens derrière eux. Hein? Mm-hmm. Puis là, il leur passe un document, ils viennent les voir. Tu sais, je remets pas en question tout le système, mais est-ce que c'est pertinent? Je me pose la question.
Parce qu'hier, là, j'ai écouté la commission justement pour la loi 204, c'est quoi?
204, oui.
Et il y avait une personne en arrière du ministre Lessard là, qui a été là toute la journée. Je l'ai jamais vu feuilleter une feuille, prendre un crayon, tout ça. Là. Puis elle faisait la baboune, puis c'était là. C'est quoi son rôle, tu sais? Je comprenais pas.
J'en ai un extrait que je peux... Je peux mettre deux secondes, là. Ah, même pas, je la mettrai pas. Mais il y en a une de Gérard Deltel qui répond à un étudiant qui vient de déposer un mémoire. Et derrière lui, tu vois la fille qui rit carrément. Elle est crampée de rire de voir la façon que Gérard... Elle rit pas de Gérard, elle réagit par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce que l'étudiant vient de dire. Puis c'est-tu qui est filmé? C'est comme un peu weird de regarder tout ça. Donc, on retrouve des choses comme ça. Aussi, on retrouve beaucoup de représentations de groupes de toutes sortes. Hein? Et parlant justement des groupes de toutes sortes, je vais vous sortir les statistiques qui, moi, me... Bon, je veux pas dire qu'il me renverse, mais vous allez voir que c'est quand même assez puissant quand on parle de ces statistiques-là. Tout à l'heure, je parlais qu'il y en avait beaucoup de commissions parlementaires. Il y en a 380 pour l'année passée qui ont eu lieu. On parle de 380 rencontres, donc pour 1200 heures. Et on dit que la majorité de ces séances, donc 44%, ont eu attrait à l'étude des projets de loi. Donc, c'est là où, justement, avec les tables rondes, on étudie les projets de loi avant de les déposer en chambre. Ensuite, on dit que les mandats de consultation publique ont occupé 28% des agendas, les études des crédits budgétaires 13%, et que 81% des travaux, en fait, ont été publics. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ou presque, pouvait se rendre là. Donc, on dit, et il se déroule aussi principalement lorsque l'Assemblée est elle-même en séance dans une proportion de 74%. Donc, ça veut donc dire qu'en même temps que l'Assemblée, ben, il y a les commissions qui roulent en parallèle. Puis je vous le dis, avoir les horaires, là, c'est du lundi au vendredi, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que oui, là, les travaux, c'est ça. En dehors des travaux de l'Assemblée, du lundi de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à midi, 14h à 18h, le vendredi de 9h30 à 13h, en période des travaux réguliers, encore là, il y a un horaire. Quand c'est des périodes de travaux intensifs, là, donc on a vraiment l'horaire, c'est guéri, là, ça fait partie de la machine. C'est comme tu as dit, là, en plus, là, Danny, c'est un moyen là, pour ces gens-là d'aller chercher un bonus, là, une rémunération supplémentaire.
Malgré que c'est là qu'ils doivent travailler le plus, à part dans leur comté, parce que, tu sais, la parole de questions-réponses, il y a-tu de quoi de plus ridicule? Là?
Mais, puis on va en venir tout à l'heure au rôle, justement, du président de ces commissions-là. Tu sais, ils sont assez quand même réglementés, ces commissions-là. Tu sais, tu peux pas dépasser dans le temps, les interventions sont minutées. Comme j'ai dit, c'est pas toujours les gens qui arrivent là préparés. Tu sais, peut-être, je remets pas en question encore là, comme je dis, peut-être la pertinence, mais c'est peut-être dans la façon de faire, puis est-ce qu'on a une certaine rigueur? Est-ce qu'on mesure l'efficacité de ça? Je suis pas sûr. Puis là, où ça me jetait un peu à terre, c'est que sur ces 380 rencontres, puis là, comme je vous dis, à 81%, c'est des séances publiques, ben il y a eu 570 audition publique. Donc, on écoutait. Des auditions, c'est on s'assit et on écoute. Il y en a eu 570 sur 380. C'est quasiment un et demi, là. Et il y a eu 660 mémoires d'organismes et d'individus. Donc, tantôt, on entendait parler des ordres professionnels. C'est des organismes, là, tout organisme confondu. Mais il y a beaucoup de mémoires qui sont déposées. Donc, des gens qui vont prendre le temps de les lire, de les déposer. Puis tous ces documents-là, je vous dis, on les archive, on garde des traces. C'est incroyable. Donc, où je veux en venir avec tout ça? Ben, c'est comme je vous dis, je vous ai fait passer quelques passages. vous avez entendu des rétorques. Vous avez vu aussi le type. Puis là, j'ai pris peut-être, oui, les pires cas. Parce que j'en ai un ici, puis je peux le faire écouter, parce que c'est quelqu'un du Réseau Liberté Québec, Éric Duhaime, qui s'est présenté pour parler de la Régie des rentes du Québec.
On arrive à notre dernier témoin de la journée. J'invite Monsieur Éric Duhaime.
Vous allez voir que c'est assez précis. Quelqu'un qui connaît son...
présentation aux membres d'une durée d'une quinzaine de minutes, suivie par une période d'échange avec les membres de la Commission. Alors, Monsieur Duhaime, bienvenue et la parole est à vous.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier les membres de la Commission parlementaire de m'offrir l'occasion de m'exprimer. Et si je m'exprime aujourd'hui, c'est à titre de citoyen. Je sais que j'ai eu des affiliations politiques dans un passé récent. J'ai travaillé avec certains d'entre vous il n'y a pas si longtemps. Mais depuis, je suis passé à autre chose. J'ai travaillé en Irak, en fait, même pendant une bonne partie, pendant 6 mois depuis la dernière campagne électorale. Et je suis revenu au Québec, et si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que je suis un simple cotisant qui est excessivement inquiet, un cotisant qui fait partie de la jeune génération qui va devoir payer pour plusieurs des choses qui sont proposées ici aujourd'hui. Et je m'inquiète, et je veux le faire au nom de plusieurs personnes, j'en suis convaincu, qui aimeraient beaucoup exprimer cette opinion, mais qui n'ont même pas encore l'âge de pouvoir assister à une commission parlementaire ou qui ne sont pas encore au monde pour pouvoir venir dire ce qu'ils pensent du fait qu'on est en train de leur pelleter, de leur détourner une charge supplémentaire sur les épaules. Moi, je considère que le spectre qui entre présentement le Québec, concernant le sujet excessivement important dont vous traitez aujourd'hui, c'est rien de moins que la faillite du système de retraite au Québec. Quand on voit les chiffres qui sont même proposés dans votre document, qui étaient d'ailleurs des chiffres avant même les désastres de la Caisse de dépôt des 18 derniers mois.
Donc, vous voyez, Éric arrive là, se présente, remercie d'avoir l'opportunité. Puis, il fait son speech, hein, vous avez vu, il a parlé qu'il est allé en Irak. Tu sais, c'est un peu fait aussi, je ne veux pas dire à la bonne franquette, mais il n'y a pas nécessairement de cadre. Hein. Mm-hmm. Tu arrives là, tu fais ta représentation, puis tu y vas. Puis là, je laisse l'extrait un peu filer, puis je vous invite à aller l'écouter. Puis encore là, je vous dis, c'est disponible. Vous pouvez écouter les extraits que vous voulez, mais vous allez voir, il y en a qui se démarquent par le protocole de présentation, puis par le fait que les gens, quand ils arrivent, puis comme j'ai dit, je laisse pas aller l'extrait, parce que là, on passerait l'examen, l'émission à écouter les extraits, mais Éric, il va avec ses points, puis il rétorque là au gouvernement qui veut y aller de l'avant avec une réforme, là, la Régie des rentes du Québec. Donc, c'est intéressant. Vous allez voir, il y en a des cas où c'est intéressant. Puis, regarde, j'ai vu ça, je dis, ah, wow, c'est le même discours qu'Éric nous a fait au Réseau Liberté Québec. Ouais. Puis, il est allé là, puis il l'a fait. Puis, on l'a dit, hein. On l'a dit à combien de reprises, à porte fermée, moi, puis Danny, il faut l'occuper, cet espace-là. Fait que, je veux qu'on décrit aussi, mais en même temps, j'invite les gens à y aller. Puis, surtout ceux qui partagent la même philosophie que nous. Mm-hmm. Ben, je sais que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas nécessairement les dollars, mais c'est une question de disponibilité, puis c'est oui, c'est des dollars, parce qu'il faut s'absenter du travail assez souvent, puis on attend, puis c'est pas sûr aussi qu'on va passer, puis des fois ça peut être remis, puis ainsi de suite, là, mais j'invite les gens à le faire.
De mémoire, là, je pense qu'il s'était fait répondre par le ministre du Bonheur, Bachand.
Ouais.
De dire, il s'est fait répondre quelque chose comme, c'est parce que c'est pas du modèle québécois,
ouais,
c'est
des offres. Ouais, il y en a eu des affaires comme ça.
Ouais.
Puis, beaucoup de gens qui vont là, hein. J'en ai des extraits ici, là. J'y passe vite, là, parce que j'ai pas fait.
Des travailleurs et des travailleuses.
Mais ici, c'est la FTQ, les Métallinos.
Les gens se présenter. Je vous souhaite bienvenue. Écoutez à cette bien commission.
Ça. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Michel Arsenault, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Je suis accompagné à ma droite de Daniel Roy. La ministre, entre autres, des Richesses naturelles n'a pas le pouvoir une fois qu'un claim est déposé. Et ça nous rend fort mal à l'aise. Un jour, moi, je pense qu'il va falloir tout réviser ça. Il va falloir tout réviser ça, puis quand on regarde ce qui s'est passé depuis la rédaction de notre mémoire et...
En fait, c'est un exemple que je voulais donner, là. Mm-hmm. Parce que il y a des bons bouts, puis il y a des mauvais bouts, là. Faut tout les taper.
Mm.
Si je conclue là-dessus, parce qu'il faut avoir une conclusion, ben, quand on regarde justement la conclusion qu'on nous présente dans le document, c'est le fun parce que d'un point de vue artistique, là, c'est une belle plume, tu sais. On nous dit, ben, les commissions parlementaires, l'Assemblée nationale constituent l'instrument essentiel du contrôle parlementaire sous toutes ses formes. D'abord lieu, de débats sur des projets de loi. Elles sont devenues au cours des dernières décennies l'outil par excellence de surveillance des activités du gouvernement, de sa gestion administrative, de ses dépenses et de ses crédits annuels. Par ailleurs, les nombreuses consultations publiques menées chaque année par les commissions sont considérées comme un moyen incontournable par lequel les parlementaires peuvent connaître l'opinion des citoyens, des experts et des groupes organisés. En lisant ça, j'ai pensé, lobbyiste, groupe de pression. Je dis, eux autres, ils l'ont compris. Eux autres, là, ils sont allés à la dernière page, page 33, ils ont dit, ah ouais. Hey, puis en plus, on valorise ça. Là. On dit que c'est l'outil parfait. Est-ce qu'il est parfait? J'ai un petit bémol.
Il est parfait pour eux, peut-être.
Peut-être. Mais c'est dangereux quand tu dis qu'une commission, tu sais, en fait, on voit que ça l'étudie, on examine. On prend pas vraiment une décision, mais c'est est-ce que j'espère qu'il y a un transfert de connaissances entre la commission et l'Assemblée. Mais comme on dit, des fois, ça a lieu en parallèle. Fait que ce qui se dit à gauche, est-ce qu'on le répète à droite? Je ne sais pas. Est-ce qu'on tient la ligne de parti? Est-ce qu'on se tient? J'ai l'impression que des fois, étant donné que c'est un cadre formel, mais où on peut y aller un peu plus de façon ad lib, j'ai l'impression qu'on voit des shows comme on a vu avec un Amir Kadir qui prend le plancher des vaches. Tu sais, puis des fois, on dit qu'ils ont quasiment l'immunité. Fait que...
Ils peuvent prêter serment, hein? Comme hier.
Oui,
là,
ils peuvent.
Je sais pas si la bombe a prêté serment, finalement, mais je sais que de Belleval et de Miville-Deschênes, ils ont prêté serment avant pour leur permettre de tout dire ce qu'ils voulaient dire. Et en plus, parce qu'ils avaient déposé une requête en nullité en cours. Donc, mais, pour pas que ça puisse servir en cours. Donc,
mais ça, c'était plus, je pense, une procédure justement pour en cas de poursuite. Puis là, c'est plus par rapport à la partie législative.
Ouais. Mais la plupart ne le demandaient pas.
Non.
De ce que j'ai vu hier. Là.
Parce que normalement, ce qui est dit là n'est pas nécessairement utilisé. Il ne peut pas être utilisé ailleurs. Puis là, on termine le texte de la conclusion parce que cette page-là, comme je vous dis, artistiquement, là, la plume, elle est là. En tenant compte des éléments nouveaux apportés par la réforme de 2009, parce que bon, il y a eu des réformes, comme je vous dis, puis en 2009, c'est la dernière, on prévoit qu'au cours des prochaines années, les commissions parlementaires, et ça, c'est important de comprendre ça, surtout quand on parle, quand on parlait la semaine passée de faire avancer la cause de la droite, ou faire avancer la droite, ou les idéaux de droite, ben, vous voyez que l'importance que accorde l'Assemblée nationale à ces commissions parlementaires, donc on dit que c'est les prochaines années, les commissions parlementaires favoriseront par divers moyens un rapprochement avec les citoyens. Pensons par exemple à l'utilisation de la visioconférence au cours d'auditions publiques, à la possibilité de faire des consultations en ligne ou de transmettre des mémoires sous support électronique. Donc on va amener aussi, puis je vous l'ai dit, hein, l'Assemblée nationale est à l'avant-garde côté technologique, donc ça s'en vient. À coup sûr, cela entraînera une visibilité accrue du travail des députés en commission parlementaire et une meilleure connaissance de la part des citoyens du rôle de leurs représentants de l'Assemblée nationale. Donc, si on veut faire avancer nos idées, ben, il va falloir que des Éric Duhaime, des Yann, des Joanne, des Danny Quirion, des Steve Martineau, des Philippe David, avec qui on va parler de l'autre côté de la pause, tout ce beau monde-là.
Va falloir... Pas après la pause.
Non, pas
plus
après.
Plus tard.
Plus tard, OK. On me fait signe que notre planning a changé. Non, mais tout ça pour dire que tous ces gens-là, peu importe, là, devront s'impliquer un petit peu, peut-être. Je sais pas.
Ben, si en démystifiant là, ce que tu viens de faire, là, en démystifiant la façon de procéder, puis en sachant qu'il y a moyen d'aller consulter ça, peut-être que ça peut rassurer les gens, puis dire « Ah, c'est peut-être pas si dur que présenter un mémoire. »
Le document là, dans lequel je fais référence, c'est un document qui parle de la commission, mais vous avez d'autres documents qui là vous explique c'est quoi le processus, comment vous pouvez vous présenter, sous quelle façon vous devez présenter vos documents, puis... Mais c'est pas compliqué, là. Vous êtes capable, le commun des mortels est capable de lire ça. C'est écrit dans un langage assez simple. Puis, rapidement, si vous passez à travers ça, vous avez des bons points. Vous pouvez présenter, puis je dirais que vous n'avez pas besoin d'un avocat, vous n'avez pas besoin d'être assisté. Pas mal, tous les supports sont acceptés, puis je veux dire, il faut des fois aussi démoniser, là, puis comment je pourrais dire, là, enlever cette peur ou cette crainte, là, par rapport à ces mécanismes-là, puis penser que c'est hyper complexe, là. Puis je vous le dis, faites le tour soit sur le site de l'Assemblée nationale ou soit sur le site de YouTube ou peu importe, sur Internet, vous allez en voir, puis vous allez voir qu'il y en a que ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment fait, en bon québécois, sur la gueule, tu sais, c'est plus ou moins préparé, fait que je me dis, l'important, c'est d'aller là, vendre vos idées, les faire connaître de vos députés. Puis là, on vous dit que l'Assemblée nationale puis que vos élus accorde une importance à ces commissions-là, ben allez-y. T'sais, si c'est le seul moyen qu'on a, parce qu'à part ça, quel moyen qu'on a pour les approcher, pour discuter avec eux?
Il y en a, mais...
Là, j'espère que tu ne fais pas référence à Tout le monde en parle.
Un petit peu de cash.
Oui, un peu de cash, OK. Non, mais tu comprends que si c'est l'opportunité qu'on nous donne, ben il faut la saisir aussi. Mm. Moi, me plaindre, puis en même temps, ne pas cogner à toutes les portes qu'on met à ma disposition, mais tu sais, je me dis, faut avoir un discours qui se tient quand même.
Mm. Non, c'est ça. C'est un aspect qu'on n'utilise pas, puis qu'on devrait.
Non, puis moi, comme j'ai dit, là, j'ai parti d'une réflexion bien banale. Je me suis dit, à quoi ça sert? Puis c'est sûr que là, quand tu regardes ça, puis tu vois leur mission, comme je dis, c'est pas très incisif, là. Tu sais, ils sont pas là pour trancher le blanc et le noir, ils sont pas là pour condamner des gens, ils sont pas là pour approuver des budgets. Là, tu te dis, ben, en partie, est-ce que c'est des énergies qui sont perdues ou pas? Je vous laisse juger. Puis je voulais juger sur ce que vous avez vu aussi au cours des deux derniers jours. C'est-tu un cirque? Il y en a qui utilisent ce mot-là des fois. Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est un bon exercice? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Pose des questions. Je ne sais pas. Je ne peux pas nécessairement y répondre. Est-ce que c'est on devient un participatif dans un télé-réalité show? Je ne sais pas. Est-ce qu'on donne de l'exposure, excusez les termes anglais, mais est-ce qu'on donne du temps, du airplay à des gens qui devraient pas en avoir? Je sais pas, tu sais.
Ouais. Mais ça se rend pas beaucoup dans les médias, ces débats-là. Sérieusement, faut tomber sur...
À part celle qu'on vit présentement.
Ça, faut tomber par hasard sur le canal et dire, ah tiens, de quoi qu'ils parlent. Moi, ça m'arrive des fois, là. Puis, faut que tu tombes dessus. Puis, souvent, il passe en replay, reprise la fin de semaine.
Il y a des longueurs.
Puis... Ouais. Mais tu sais, ça peut être un moyen d'écouter le canal de l'Assemblée nationale pour savoir comment ça marche. Puis, dire, ouais. Hey, là, je suis mûr, là. Go. Moi, j'y vais. J'ai quelque chose à défendre. Puis,
parce que quand il y a journée, puis on le voit sur le site de l'Assemblée nationale, il y a une petite photo qui apparaît à l'écran, là, séance à journée. Puis là, tu sais, je veux dire, va faire autre chose, là. Parce que ça peut être 5, 10, 15 minutes, là. Puis le canal, il est frisé. Ouais. Mais, tu sais, à quelque part, comme je vous dis, je suis pas là ici ce soir pour dire si c'est mauvais ou si c'est bon, mais c'est vous qui payez ça aussi. Hein? C'est vous qui payez ça de même vos poches, c'est l'argent des contribuables. Je me dis, un comité, j'ai rien contre ça, là, que ce soit un comité de citoyens, un comité de directeurs pour des entreprises, ou peu importe, mais il faut que ça livre la marchandise, puis il faut que ça serve à quoi. T'sais, la réunionnite aiguë, comme on dit là, en entreprise, ça existe dans le domaine privé, puis c'est ce qui tue les organisations. Moi, j'ai suivi un cours l'année passée. On disait que ce qui tuait les organisations, c'est les M et M. Les meetings et les managers. mais tu comprends, il y a un concept marketing là-dedans. Là. Mm-hmm. Mais on disait que c'était ça, les M et M. Effectivement, les réunions, une mauvaise réunion peut faire dérailler des dossiers. Puis, est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire peut-être? Je ne veux pas citer l'exemple du dossier du Colisée, mais est-ce que c'est ce qu'on fait peut-être des fois avec des commissions? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas nécessairement de filtre. Vous allez le voir, allez sur le site, puis vous auriez pu même vous insérer dans le processus qu'on voit présentement avec le Colisée. Là. Il y aurait moyen.
Exact.
Justement, c'est triste parce que là, on avait quelqu'un à qui on devait parler. Ça ne fonctionnera pas, ce que j'en conclue?
Non, le numéro qu'elle m'a laissé ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'elle s'est trompée dans ses digits? Mais ça sonne puis ça tombe sur un fax.
Bon.
Donc
malheureusement.
Mais
on va le dire pareil parce que là les gens on avait
on
sollicité.
En parlera dans un peu à pause un petit peu avant Philippe parce que Philippe lui il peut pas avant 21h.
Parfait. Non mais
j'en
c'est ça.
Un petit tour
mais
de table
tout
après,
ça pour dire qu'on essaie de rejoindre en fait maître Julie Mécan. Ça fonctionne pas donc on est désolé pour ceux qui se sont joints à l'émission pour l'entendre mais on n'est pas capable de la rejoindre. Donc si elle nous écoute on va répéter le numéro 780-0876 dans la région de Québec, hein, cette dame.
Mm-hmm.
Et le numéro 1-800-1866-497-4728. Vous nous envoyez un petit courriel info@connaitrelasuite.com. En même temps, je le donne à tout le monde. C'est une façon de vous donner. Mais on ne prend pas les appels. Ce qu'on veut, c'est l'appel de Maître Julie Mécan.
Voilà.
On va faire une petite pause et on se retrouve de l'autre côté. Vous écoutez Connaître la suite. Sur les ondes du XM156 et du www.radioshock.fm. Vous êtes de retour sur les ondes du XM156. C'est l'émission Connaître la suite. La seule émission au Québec, on peut l'affirmer. Ben, plus qu'au Québec, en Amérique du Nord, qui fait la promotion des idéaux de droit, de liberté et de responsabilité individuelle.
On n'est pas tout seul.
Ouais,
c'est dédié. Pas de menterie, là.
Dédié 100%
ben oui.
Sa radio satellite.
Free.
Non, non.
Free Talk Live.
Ah, c'est vrai.
Free Talk Live.
Ouais, mais ils sont pas disponibles pour nos abonnés au Canada.
Ils sont peut-être.
Non, ils sont pas. J'ai confirmé. Je te confirme.
Ouais. S'ils ont le chose aux États, oui.
Oui. Mais normalement, les abonnés au Canada, ils sont au Canada.
Oh, et... tabarouette. Là, les codes... Tu parles à vos camionneurs.
Ouais, je sais, mais les codes postales frauduleux, là. Justement, les camionneurs qui nous écoutent, là, ils se font livrer des affaires juste avant de traverser les lignes, là, puis après ça...
Ils sont wise,
ils sont pas mal wise.
Oh,
oui. Hey, parlant de personnes wise, je sais pas s'il est wise, mais en tout cas, il nous a pondu d'excellents billets au cours des derniers jours. Et je sais pas si on peut dire que c'est un habitué de l'émission, mais après deux fois, on peut dire un habitué de l'émission. Donc, Philippe David, du Minarchiste québécois, qui est avec nous.
Oui, bonjour.
Salut Philippe, ça va bien?
Ça va très bien, toi, Steve?
Ça va très bien. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à l'émission ce soir.
Ça me fait plaisir, toujours.
On sait que tu dois combiner, évidemment, ta vie personnelle et ton implication sur les réseaux sociaux et surtout sur ton blog, le Minarchiste québécois. On invite les gens à le consulter en même temps qu'ils nous écoutent parce que on va faire référence à des billets que tu as écrits. Donc, c'est le www.minarchisteqc.com.
Et, c'est bien ça.
Oui. C'est ça. Vous aviez convenu, toi et Danny, de parler, je pense, d'un premier dossier avant tout. Et je laisse Danny...
Oui, s'il y a eu mon courriel.
Lancer les choses.
J'entends
oui,
de m'inquiéter.
Oui, j'ai ouais. Eu ton courriel, Danny.
Oui. Moi, il y a un texte qui m'a vraiment impressionné, là, puis j'aimerais que tu nous en parles. Là. C'est sur les délais d'attente en santé. Je pense que tu avais une théorie là-dessus. Je sais pas si c'est ta théorie ou une théorie ou je sais pas c'est quoi là, mais
ben c'est une théorie, c'est pas nécessairement ma théorie là. J'avoue que moi je l'ai pris d'ailleurs, mais effectivement c'est quelque chose qui s'applique plutôt bien dans le système de santé au Québec. Puis c'est une théorie qui explique pourquoi on a des délais d'attente, puis pourquoi peu importe le nombre de ressources qu'on met dedans. Puis d'ailleurs, c'est prouvé depuis des années qu'on garoche de l'argent dans le système de santé, puis il n'y a jamais rien qui s'améliore.
Ah, tu parles du trou noir, toi. Oui.
Puis il y a une explication pour ça. Puis en fait, le problème, c'est la gratuité des soins.
Bien.
Alors, c'est bien simple. Étant donné... que les soins de santé, c'est un service ou un bien, comme tous les autres. En économie, une des premières notions qu'on apprend, c'est la loi de l'offre et de la demande.
Oh oui, la concurrence.
La concurrence, puis l'offre, puis la demande. Alors, l'offre, puis la demande, c'est tout simple, c'est toutes les choses étant égales, si on diminue le prix, la demande augmente. Si on augmente le prix, la demande baisse. Et puis, si le prix est gratuit, ben la demande devient infinie.
Oui, j'aime ça, la façon que tu l'as... C'est vrai que parce que là, en bon québécois, c'est open bar.
Oui, ben c'est ça. Vous pouvez exactement voir le même phénomène dans un open bar. Mettez un open bar, puis regardez le monde se gaver.
Ouais.
C'est un petit peu la même chose en santé. C'est mettez les soins gratuits, puis là, vous allez avoir un paquet de monde qui vont venir engorger les urgences, pas nécessairement pour quelque chose de bien, bien urgent.
Ouais.
Ça fait un problème à un certain moment donné qui ne se résorbe pas. Puis là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que normalement, là où c'est le prix qui va réguler la demande, ben là, à ce moment-là, la seule chose qu'il peut y avoir comme prix pour empêcher le monde de venir à l'urgence, ben c'est le temps.
Time is money.
time is money, oui, c'est vrai. Puis le temps d'attente, à ce moment-là, devient le régulateur de l'urgence.
Ben oui, tout à fait.
C'est-à-dire que, bon, par exemple, moi, je sais pas, j'ai un bobo quelconque, ben là, sachant que je vais attendre X nombre d'heures si je vais à l'urgence, je vais évaluer le bobo par rapport au nombre d'heures d'attente que je vais avoir à faire, puis là, je vais décider si oui ou non ça vaut la peine de me rendre à l'urgence.
Exact.
Puis là, si mon bobo est pas ben ben grave, je vais peut-être laisser faire d'aller à l'urgence.
Mm-hmm.
Mais si mon bobo est plus grave, ben là, je vais peut-être me taper les 10 heures d'attente pour aller à l'urgence, parce que là, ça va valoir la peine d'y aller. Si c'est vraiment quelque chose qui est souffrant, puis que je suis pas capable de toffer sans aller à l'urgence. Mais là, ce qui arrive, c'est que, bon, ceci étant donné, si tu mets plus de ressources dans l'urgence, plus de médecins, plus d'infirmières, tu baisses ton temps d'attente. Puis là, ben ceux qui, justement, ont des bobos, que là, ils disent qu'ils laissaient faire avant, ben là, eux autres, ils se ramassent tout à l'urgence. Fait que là, tu vois pas la lumière au bout du tunnel, là.
C'est un cercle vicieux, là, comme.
C'est un cercle vicieux, parce que là, à partir du moment où tu mets des ressources pour baisser ton temps d'attente, puis ton temps d'attente baisse le moindrement, il va remonter tout de suite, parce que là, tous ceux qui, normalement, ne seraient pas venus à l'urgence parce que le temps d'attente est trop long, vont se rendre à l'urgence, là, parce qu'ils vont penser que le temps d'attente va être plus court, puis finalement, ton temps d'attente, il va rester le même.
C'est vrai que c'est pas fou comme raisonnement.
Alors, justement, si à un certain moment donné, on veut penser à faire une réforme en profondeur du système de santé, ben il va falloir revoir le principe de gratuité.
Puis à la base, on sait qu'au Québec, on a parlé longuement des tickets modérateurs.
Oui.
Est-ce que pour toi, ça pourrait être un élément, dans ta théorie justement, c'est un peu une forme de restriction? Malgré que je trouve que moi, les tickets modérateurs à 5 ou 10, ou, tu sais, je trouve que c'est pas des montants faramineux.
Moi, je vais te dire que, en ce moment, je te dirais que juste un petit, un très petit ticket modérateur, ça changera pas grand-chose.
Ouais, un 5 ou 10, là, c'est...
Et un 5 ou 10 ou 20 piastres, là, ça changera pas grand-chose à la donne, parce que c'est pas quelque chose qui va être assez élevé, un montant qui va être assez élevé pour détourner le monde. Alors, tu vas être quand même pogné un petit peu dans le même affaire. Faudrait vraiment changer la donne un petit peu plus drastiquement.
Ouais. Puis en plus, si on y va avec un 5 ou un 10, il va sûrement coûter plus cher à administrer. Fait que on va être biaisé, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est une source de financement, mais un 5 ou 10 $, puis là, j'imagine que là-dedans, on va exclure tous ceux qui ont une situation économique un peu plus défavorable. Puis on sait qu'au Québec, c'est quoi le dernier chiffre, là? 40% qui ne payent pas d'impôts, donc...
Il y a environ 40% qui ne payent pas d'impôts, puis il y en a 60% qui en payent peu ou pas.
Fait que là, j'imagine, on va mettre en mesure des crédits d'impôts en fin d'année, où là, on va dire, parce que ceux qui vivent à même le régime là, gouvernemental doivent payer normalement, puis là, on va leur dire, ben là, ah, t'as eu 3 tickets modérateurs cette année, ben on t'en... Tu sais, je le sais qu'ils vont, pour jouer la game, là, comme on a dit, safe, avec ceux qui gagnent moins
ou juste avec la carte d'assurance maladie, ça va être écrit, ah, toi tu payes pas.
En réalité, c'est parce que moi en réalité, j'ai pas vraiment d'objection à dire pour quelqu'un en bas d'un certain seuil de revenu qu'on lui remet l'argent ou ben non, qu'on lui donne une certaine forme d'assistance financière. Ça, c'est pas vraiment le problème. Le gros problème avec notre système, c'est le système gratuit mur à mur qui subventionne les riches comme les pauvres, qui coûte affreusement cher à cause de ça, parce que justement, on subventionne autant les riches que les pauvres.
Puis les riches n'iraient même pas à l'hôpital général, ils vont déjà dans une clinique privée.
Fait que moi, mon idée d'un système de santé performant, ça serait pas ça du tout.
Mais de l'angle que tu l'approches, parce que Puis c'est vrai qu'on pense toujours que la gratuité, puis malheureusement, on vit pas dans un monde ou dans une société où tout le monde a le gros bon sens 101, on va dire. Puis malheureusement, les gens ne se restreignent pas et vont de façon systématique utiliser les systèmes qui sont en place. J'imagine que toi, puis moi, puis Danny, puis la majorité des gens qui nous écoutent, surtout à cette émission-ci, font leur devoir de citoyens, vont pas abuser des systèmes en place, mais on sait que c'est un peu comme l'alcool au volant. Il y a beaucoup de récidivistes, il y a beaucoup de gens qui, par cette gratuité, vont, comme tu dis, hypothéquer le système, puis plus qu'on va en remettre, bien, plus qu'on va accélérer, en fait, leur façon de voir la chose, puis qu'ils vont consommer davantage. Donc, c'est un peu comme un trou sans fond, un trou noir, comme je disais tout à l'heure.
Effectivement, c'est un cercle vicieux, ça n'arrête jamais. Là, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je me suis amusé à faire l'exercice sur mon blog d'aller regarder des systèmes de santé dans d'autres pays.
Tu es allé voir la Hollande, entre autres?
Oui, la Hollande, la Suisse, Singapour.
Cuba?
Oui, Cuba, c'est une drôle d'affaire parce que quand j'ai fait mon dossier santé, ce dossier-là, il était non seulement publié sur mon blog, mais il était publié aussi sur le blog Les 7 du Québec, puis sur le site Sans Papier, où je collabore. J'ai un billet par semaine qui est publié sur ces deux plateformes-là.
Parce qu'il faut dire, toi, c'est ça, c'est un dossier. Hein? Ça s'appelle, quand les gens vont aller sur ton site là que j'ai donné tout à l'heure, puis je répète l'adresse, minarchiste.com. J'ai eu de la misère avec ce mot-là. Minarchisteqc.com, puis c'est ça, il y a dossier santé, puis là, t'as fait ça en plusieurs parties.
Oui, c'est ça. Ben, j'ai fait plusieurs parties pour présenter. Il y a une partie que c'est l'introduction au dossier, puis une partie qui est en fait la conclusion, là. Puis entre les deux, ben je présentais un système de santé par semaine.
OK. Hey, juste avant, Philippe, ton article sur le temps d'attente, là, il s'appelait comment? Je le cherche, ton blog, je le trouve.
Il s'appelait « Le prix de l'attente ».
Le prix de l'attente. Bon, ben, c'est parfait, là, parce que là, je voulais te relancer, puis je ne le trouvais plus. Donc, « Le prix de l'attente », je cherchais ça sur le site.
C'est ça. Alors, si justement vous allez lire ça, vous allez voir vraiment le détail de la logique de la chose. Vous allez voir qu'effectivement, c'est vrai, là, parce que les urgences... En fait, on parle des urgences dans l'article, mais en réalité, ça s'étend à tout le restant du système.
Ben
ça
oui.
S'étend aux chirurgies. Ça s'étend à tous les autres traitements aussi. C'est le même principe. C'est comme une piscine qu'on essaye de vider avec une louche, puis au fur et à mesure, elle se remplit. Fait que c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans notre système. Puis tant aussi longtemps que ça va être gratuit, mur à mur, ça va toujours fonctionner de même.
OK. Donc, si on y va dans ton dossier, là, veux-tu nous parler de... C'est toi, trois pays que tu as regardé?
Ah, plus que
ben
toi.
Là, ouais, ben, sérieusement, j'ai trois pays, c'est des exemples à suivre, puis un, c'est un exemple à ne pas suivre.
OK.
J'ai mis Cuba là parce que justement, au moment où je faisais mon dossier santé, sur le site Sans Papier, j'ai un monsieur qui est de foi communiste qui n'arrêtait pas de me gosser avec Cuba, qui n'arrêtait pas de me dire Cuba ci, Cuba ça. Alors j'ai été faire des recherches sur le système de Cuba, puis j'ai sorti le mauvais côté du système cubain, c'est-à-dire celui que les touristes puis que les apparatchiks du régime ne voient pas. Le système cubain où les patients doivent apporter leur drap, leur pointure, fournir même quelqu'un pour prendre soin d'eux autres. Il faut qu'il y ait un membre de la famille avec eux autres pour prendre soin d'eux autres parce que ils n'ont pas d'infirmière pour s'en occuper. Puis si vous regardez les photos dans ce billet-là en particulier, vous voyez des patients qui ont les deux pieds dans leur merde. Alors nos gauchistes ici se soucient d'un système à deux vitesses. Ouais. Si jamais on introduit le privé, ben j'ai le regret de vous informer que le système cubain c'est un système à trois vitesses, c'est-à-dire une pour l'élite, une pour les touristes, puis une pour le reste du monde. Puis celle pour le reste du monde là, c'est le reculon.
C'est triste ça, parce que en fin de compte, en bout de ligne, là, si on se compare, c'est là qu'on se console, mais en même temps, je trouve toujours déplorable aussi au Québec, des fois, il y a des gens qui, avec les yeux, comme tu dis, ben, fermés un peu, ou je sais pas, avec des idéologies, vont dire, oh, ben, non, ça doit être supérieur dans ces pays-là, mais je pense qu'on est choyé quand même au Québec, là.
Ouais, ben c'est parce que ici au Québec c'est une drôle d'affaire parce que on a tellement de propagande qui va dans le sens que on peut pas possiblement admettre le privé en santé. Puis pourtant ouais. Le privé en santé là, un système 100% public comme on a ici là, c'est la petite minorité dans le monde.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
La plupart des pays ont des systèmes mixtes. Où ce qu'il y a du public puis il y a du privé puis que les deux coexistent ensemble puis les gens sont très très bien servis par ça puis c'est le genre de chose qui est la norme dans la plupart des pays du monde.
Oui, puis comme
nous autres on fait exception à la règle pas mal.
Puis comme tu dis on peut difficilement discuter au Québec. On dirait que aussitôt il faut camper là notre bonne volonté du côté du système public. Tu sais on peut pas du tout puis on le sait, là, il y en a qui ont essayé d'apporter le sujet sur la place publique, puis ça a jamais pris, on dirait.
Ben là, c'est parce que de toute façon, à partir du moment où on mentionne le mot privé en termes de santé, on en a qui font la danse du bacon puis qui sortent l'épouvantail du système américain.
Ben oui.
Puis pourtant, il n'y a jamais personne ici qui veut imiter le système américain.
Non.
Pas que le système américain soit si pire que ça.
Mais c'est pas le meilleur. Non,
c'est pas le meilleur d'ailleurs. Non, effectivement, dans les rangs de l'OMF, de l'OMS plutôt, les États-Unis sont même en deux places en arrière de nous autres. Je pense que la dernière fois que j'avais checké, on était au 37e rang, puis eux autres étaient 39e.
Oui, c'est ça.
Puis le système est énormément coûteux. Il est 16% de leur PIB, le coût. Comparativement, nous autres, on est à 11% du PIB.
Mais on s'en va vers le 16, par contre.
Ouais, ben on n'est pas tellement loin en arrière, là, mais notre système contrôle quand même mieux les coûts que le système américain.
Ouais, ouais.
Mais malheureusement, nous autres, on contrôle les coûts en faisant du rationnement. Alors, on fausse la donne parce que on prive nos citoyens de soins pour pouvoir arriver dans nos budgets.
Okay.
C'est pas le mieux que de dépenser trop comme les Américains le font là.
Mm-hmm.
Parce que en réalité, on le fait au détriment de la qualité des soins qu'on reçoit.
Okay. Parle-nous donc des pays là, que tu as analysés, à part Cuba. Là. On veut des solutions positives.
C'est ça. On va regarder le côté plus positif de la chose. Alors, moi, j'avais regardé la Suisse, la Hollande et Singapour.
Mm-hmm.
Ce sont des exemples types de systèmes qui sont plutôt différents de nous autres, qui incorporent une mixité dans le privé puis dans le public. Dans le sens que par exemple, le système suisse, ben le système suisse, ça c'est un des systèmes que j'aime un petit peu. Le système suisse, ben le rôle de l'État dans le système suisse est surtout comme un régulateur. C'est lui qui établit les règles, c'est lui qui dit qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui peut pas se faire.
Ouais, les orientations.
Les grandes orientations du système, exactement. Puis à partir de là, ben la plupart des hôpitaux sont privés, quoique la grande majorité d'entre eux sont à but non lucratif, sont privés, mais à but non lucratif.
Okay.
Les assurances aussi sont privées. Par contre, toutes les compagnies d'assurance doivent avoir un package de base qui incorpore puis qui couvre un certain montant d'affaires qui est prédéterminé par l'État.
OK.
Puis ils n'ont pas le droit de charger plus cher que tel montant pour ce package-là. Là où ce qu'ils se font compétition, c'est sur les extras, les ajouts au package de base. Puis sur les choses comme le déductible, par exemple.
OK. Ouais, les franchises.
Les franchises, ben c'est ça. Alors, là-dessus, ils permettent aux compagnies d'assurance, qui eux autres, si dans une grande mesure, Et en Suisse et en Hollande, il y a beaucoup des compagnies d'assurance de même qui sont aussi à but non lucratif. Donc, leur but, c'est pas vraiment de faire du profit. je sais pas trop comment est-ce qu'ils font pour perdurer dans ce sens-là, mais apparemment, ça fonctionne bien, leur système. Puis, ils ont la particularité qu'ils ont absolument zéro temps d'attente dans à peu près n'importe quoi.
Ah oui.
La Hollande, peut-être un petit peu moins, là, parce qu'eux autres, ils ont fait leur... La Hollande, je l'ai mentionné parce que c'est un cas intéressant, parce qu'eux autres, ils ont fait... Il y avait un système 100% public, puis ils ont fait une réforme de leur système de santé de fond en comble pour arriver au système qu'ils ont actuellement. Le système qu'ils ont actuellement, il est là depuis à peu près 2004, ça fait qu'il est encore très, très jeune. Mm-hmm. Puis c'est encore... Il n'a pas encore fait tout à fait ses preuves. Ça fait qu'il y a encore un peu de temps d'attente par-ci, par-là, mais ça se résorbe tranquillement, pas vite.
Ça ressemble à quoi, les temps d'attente?
On parle de à peine pour des temps d'attente des chirurgies, pas plus que 2 mois. Là.
OK.
Comparativement à ici, où ce qu'il faut attendre 4, 5, 6 mois, puis des fois beaucoup plus. Là.
Mm-hmm. Ça, c'est pour la chirurgie.
Les temps d'attente à l'urgence sont quasi inexistants dans tous ces pays-là.
OK.
Alors, c'est...
Mais qu'il y ait un certain temps d'attente, c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est que ce soit long, parce qu'une urgence, là, t'arrives, puis t'as pas de rendez-vous, là.
Ah,
moi, quand même, qu'il y a un temps d'attente de 3 heures, là, moi, je m'en foutrais pas mal.
Ouais, ben, je te dirais que si tu prends des pays comme la Suisse ou la Hollande ou Singapour... Tu peux arriver dans l'urgence, là, puis tu vas probablement voir un médecin en moins d'1 heure.
OK.
C'est aussi vite que ça, là. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, de toute façon, la façon que le système est arrangé, tu n'as pas vraiment besoin d'aller à l'urgence si tu n'as pas de rendez-vous. Pour eux autres, eux autres, ils connaissent pas ça, ne pas être capable d'avoir un médecin de famille.
OK. T'sais?
Ça n'existe pas chez eux.
Oui, parce qu'il y a ça aussi dans l'équation au Québec, là. C'est qu'aujourd'hui, on se frappe le nez à bien des portes, puis tout ce qui reste comme porte, c'est celle de l'urgence.
Oui, ben, tu sais, là-bas, si tu vas avoir ton... dans la plupart des pays d'Europe, d'ailleurs, pas juste ceux que j'ai cités, là, mais la plupart des pays d'Europe, parce que je veux dire, si tu vas voir à un certain moment donné, Joseph Facal, dans une de ses chroniques, lui, parlait du temps qu'il était en Espagne, puis à un certain moment donné, que lui aussi a été à l'hôpital à l'Espagne, puis que justement, parler de ça, dans lequel, en Espagne non plus, il n'avait pas de temps d'attente. Là.
Okay.
Pour eux autres, puis d'ailleurs, dans la plupart du monde, avoir des temps d'attente comme nous autres, on a, c'est totalement aberrant, c'est totalement anormal. D'ailleurs, dans mon article sur la Suisse, je mettais une entrevue radio avec Joanne Marcotte, dans laquelle elle parlait de son expérience où elle avait été faire une conférence sur notre système de santé en Suisse. Puis vous auriez dû avoir, quand elle décrivait les réactions que les médecins suisses, il y avait des médecins puis des assureurs suisses en santé à sa conférence, puis la réaction qu'ils ont eue quand elle leur a parlé des temps d'attente puis tout ça qu'il y avait dans leur système de santé. Quand elle a présenté l'organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux, là, ils sont totalement esclaffés de rire. Ils se roulaient quasiment à terre.
Mm-hmm.
Alors, c'est totalement... Notre système, nous autres, est totalement aberrant.
Mm. À cause des principes que tu as dit tantôt.
C'est ça.
Mm.
Puis là, à côté de ça, ben il y a le système de Singapour qui, lui, est un petit peu... Il y a une drôle de particularité. Il est un petit peu différent des autres dans le sens qu'il ne s'appuie pas pour le paiement des soins. Il ne s'appuie pas en grande partie sur des assurances. Le gouvernement de Singapour prélève un certain montant de la paye de chacun des travailleurs qui travaillent à Singapour, puis le met de côté dans un compte qui leur appartient.
Ah.
Qui accumule des fonds.
Un compte santé.
Un compte santé, exactement. Ça fait partie de leur filet social, là, parce que les prélèvements sont pas faits strictement juste pour le compte santé. Ils ont des prélèvements, le prélèvement global englobe aussi le plan de retraite. Alors, dans le cadre de ça, il y a un certain montant du prélèvement de leur filet social qui va dans un compte santé particulier. Puis après ça, ben les Singapouriens, quand ils ont besoin de soins, se servent de ce compte-là pour payer pour leurs soins.
Okay.
Alors, l'idée derrière ça, c'est que, tu commences à travailler, tu accumules l'argent dans ton compte santé pendant que tu es jeune, puis que tes besoins en santé sont minimes,
mm-hmm.
que tu es en relativement bonne santé, puis tes besoins en santé sont très, très minimes. La plupart des jeunes vont pas faire un examen annuel, vont pas passer à tout bout de champ chez le médecin. Quand ils passent chez le médecin, c'est pour des petites affaires, des petites infections, des choses comme ça.
Ouais.
Le médecin leur prescrit quelque chose, puis ils s'en vont acheter le médicament prescrit, puis ils prennent ça pendant 10 jours, puis ça finit là.
Ouais.
Alors, les besoins en santé, quand on est relativement jeune, on n'en a pas beaucoup. Donc, pendant ce temps-là, l'argent dans le compte santé, il s'accumule. Puis là, ben si c'est un compte avec des placements, par exemple, qui fait fructifier un peu, ben on se ramasse plus vieux quand nos besoins de santé sont plus grands, avec un bon gros montant là qui nous permet de justement couvrir les soins de santé qu'on va avoir besoin plus tard.
OK. Tant que c'est pas géré par la Caisse de dépôt ici, là.
Ouais, ben non, ça serait pas géré par la Caisse de dépôt, là. Moi, j'envisionnerais plutôt un système de même géré par des gestionnaires de portefeuille privé, plutôt, là.
Ouais.
Un petit peu de la manière qu'on fait gérer nos REER, peut-être. Ça peut même aller dans le même sens que ça.
Ouais. Malgré que là, c'est le gouvernement qui fait le prélèvement.
Ouais. Tu sais, ça peut aller dans un régime collectif, même géré par des compagnies privées. Un peu comme le régime, comme tu peux avoir des régimes collectifs d'assurance santé dans des compagnies, là.
Mm-hmm.
Tu peux avoir un petit peu le même genre qu'à ce moment-là, ça serait le gouvernement qui instituerait cette chose-là puis qui engagerait une compagnie privée pour le gérer.
Ben, comme tu disais tantôt, je pense que le rôle d'un gouvernement là-dedans, c'est de donner les orientations, d'avoir un peu de la législation, tout ça, là, qui protège monsieur, madame, tout le monde, comme tu dis tantôt, là, par des lois qui forcent les compagnies à offrir des choses là qui sont abordables pour une couverture de base. Mais après ça, on laisse ça à des tierces parties qui sont des experts dans le domaine, puis qui font déjà de l'assurance de particulier ou privé, puis qui gèrent déjà des portefeuilles, comme tu dis, d'investissement. Puis je pense qu'avec ça, on va assurer la pérennité d'un système.
Ben moi en réalité ça serait ça. Moi ce que j'aime beaucoup du système de Singapour, c'est qu'il met le pouvoir dans les mains du patient. C'est le patient qui a son compte santé. Le compte santé, l'argent qui est dedans est à lui. C'est lui qui gère, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait avec. C'est lui qui va négocier avec le médecin puis avec les divers intervenants en santé pour les prix qu'il va payer, les traitements qu'il va recevoir.
Ouais, c'est une approche avec, tu sais, tu dis patient, mais c'est plus un client, un customer, hein, c'est
ben,
comme ça.
Ben c'est ça, c'est tu deals avec toi. Là, à ce moment-là, les décisions médicales se prennent entre le patient puis le soignant. Que ce soit un médecin, que ce soit une infirmière, que ce soit un physiothérapeute, que ce soit eux autres qui ont des médecines douces, la médecine chinoise, des affaires comme ça dans ce pays-là, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chiropraticien, ça peut être, il n'y a pas vraiment de limite là-dedans. Puis, à Singapour, ils ont aussi la particularité que dans les cliniques, les bureaux de médecins, ils sont obligés d'afficher leur prix.
Ben oui.
Alors, tu peux effectivement, quand tu cherches un médecin, quand tu cherches quand tu as besoin de soins de santé, ben tu peux magasiner puis trouver le médecin qui charge le prix que toi tu veux payer.
Mais pourquoi tu penses qu'au Québec, on le fait pour des voitures, on le fait pour un paquet de choses dans notre vie?
On le fait pour n'importe quoi.
Mais on n'est pas capable pour la santé. On dirait que je sais pas là. Puis je dis, on dirait, c'est pas mon cas. Moi, je serais prêt à magasiner, là, tu sais. Puis on s'entend, on parle pas des cas extrêmes, des urgences. Là, tu viens de te faire frapper par une voiture, puis là, tu rentres avec tu sais, deux membres en moins. Je parle pas de ça. Mais je parle quand tu veux magasiner des services. Là, on n'est pas dans la chirurgie plastique, là. On parle de, tu sais, de prise de sang, ainsi de suite. Puis comme tu dis, en fonction de l'offre et la demande, si moi j'ai un peu plus de temps, la personne, je sais que c'est plus long. Comme un garagiste, tu sais, il y en a qui sont prêts à payer 20$ de l'heure pour faire taponner leur voiture, mais le garagiste, il est pas spécialisé, puis il va en charger 5 heures à 20$. Il y en a qui vont dire, non, moi, j'aime mieux payer le gars 70, il va me glisser une demi-heure, tu sais.
Ah, ben, c'est ça, puis c'est une question de choix, là. Je veux dire, ben c'est oui. Des choix personnels. Tu y vas avec ce que tu veux. Je veux dire, si moi, je vais à un magasin pour m'acheter quelque chose, ben, j'ai le choix entre le modèle de luxe, puis j'ai le choix entre le modèle de base, puis j'ai le choix entre une dizaine de modèles entre les deux.
Ben oui. Et
là, je prends celui qui me convient le plus à moi, là, selon mes critères à moi.
Ben oui.
Pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose au niveau de la santé? Mais là, vois-tu, le problème au Québec, c'est parce que la santé, c'est tabou. On peut pas parler de la santé de façon rationnelle ici au Québec. On dirait que pour nos élites, là, premièrement, c'est comme c'est sale de faire du profit sur le dos des souffrances du monde.
Ouais.
OK? Le monde, il s'imagine que faire du profit à cause en soignant les malades, que c'est corrompu, que c'est quelque chose de mal.
Mais malheureusement, pour ces gens-là, le cadre financier, c'est un cadre financier dans un modèle capitaliste.
Ben, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, si on prend la même logique, pourquoi est-ce que c'est pas aussi mal de faire des profits en vendant de la bouffe?
Ben.
Tu sais, de la nourriture, c'est quelque chose, c'est un bien essentiel, on en a besoin pour vivre. Vendre de la nourriture puis faire un profit dedans, c'est pas sale.
Le logement.
Si on applique la même logique, ben oui, ça l'est. Mais pourtant, le fait que justement des supermarchés puis des compagnies en alimentation font un profit et justement l'incitatif que ça leur donne de s'arranger à ce que les tablettes soient toujours pleines puis qu'on manque jamais de rien.
Mais c'est vrai que c'est un discours à deux vitesses. Je parle même pas du système, là. Tu sais, on le voit avec les loteries, les jeux vidéo, la SAC, tu sais, là, écoute, pas de problème, le gouvernement, il est là pour faire de l'argent sur le dos du citoyen. La santé, on peut pas, c'est tabou, comme tu dis. Dans l'éducation, c'est à peu près la même chose.
Oui, puis pourtant, je veux dire, c'est la même logique du marché s'applique pour
oui.
N'importe quel bien et service, que ce soit l'éducation,
puis,
que ce soit la santé, que ce soit n'importe quoi.
Qu'est-ce qui coûte cher au Québec, on le sait, hein? Ce qui coûte cher en termes d'impôts, ben c'est le système d'éducation puis le système de la santé.
Ben c'est les deux postes budgétaires les plus gros.
Les plus énormes.
C'est la santé, c'est 45% du budget de la province, puis... l'éducation, c'est quelque chose comme 25 ou 30 %.
Ouais,
ouais. Ça fait que pour le reste des missions de l'État, il reste pas grand-chose.
Non, puis c'est...
Que là, on se ramasse avec des aberrations comme, ouais, on a 31 Hells Angels qui sont libérés, faute d'avoir pu les amener à procès dans des délais raisonnables. C'est-tu assez aberrant?
Oui, puis comme tu le dis, on n'est pas capable d'avoir la discussion, on n'est pas capable d'en parler.
Non.
Fait que,
j'ai essayé d'en discuter avec un grand nombre de gauchistes. À partir du moment où on parle le mot privé, ils font automatiquement la danse du bacon. Puis,
puis comme tu le dis, c'est les postes budgétaires où il y a les plus grandes dépenses, puis c'est là où il y a le moins d'implication du privé. C'est en tout cas, je veux pas faire de relations ou d'associations étranges, mais. Je pense qu'il y a moyen de quelque part, puis tu sais, je le sais qu'on est souvent amené dans notre vie à expérimenter le système de l'éducation, ça c'est sûr, puis le système de la santé, puis à toutes les fois, oui, si c'est un cas d'urgence, on va être pris en main par le système, là. C'est vrai que le système ne nous laisse pas tomber, mais on est extrêmement déçu là, quand on sollicite dans un cadre normal, là, soit par les délais d'attente, soit par les réponses qu'on a, puis on le sait qu'au Québec, il y a maintenant une médecine parallèle à l'extérieur du pays qui se développe.
Ah, ben oui.
Parce que, justement, les gens sont prêts à aller aller faire un voyage en Inde ou ailleurs en Amérique latine pour combiner un voyage à Cuba. Tu sais, je veux dire, on est rendu là. Fait que si on se réveille pas, tantôt, c'est la mondialisation de la santé qui va nous rattraper. Puis les gens, écoute, ils vont prendre les moyens qu'il faut. Parce que...
Quand on est rendu qu'on a du monde qui s'en va jusqu'à Mumbai pour se faire soigner, là.
C'est totalement
aberrant. C'est totalement stupide. Ça peut pas trouver de meilleur terme que ça, là. C'est totalement stupide, la façon qu'on est organisé. C'est un non-sens. Puis de pas pouvoir en parler, de pas pouvoir proposer rien, qui aiderait à résoudre le problème, là. Puis qu'il n'y ait pas quelqu'un en quelque part, parce que, je veux dire, même les partis politiques puis des groupes politiques qui sont supposés être de droite n'osent même pas vraiment donner un offre d'une réforme de la santé qui a du bon sens. Même dernièrement, Legault puis le CAQ, leur offre de réforme du système de santé, là, c'était totalement nul à mon avis. Ouais,
une réformette.
Il va franchement pas assez loin. Puis tout ce qu'il propose en réalité, c'est de juste des solutions pour essayer de mieux financer le système actuel sans vraiment changer ce qui est à la racine du mal, si on veut. Alors, c'est bien beau poser des band-aids sur le système, là, mais le système, il est au-delà des band-aids. Le système, il a besoin d'être complètement revu.
Revu et corrigé.
De la base jusqu'au top. Puis, faut vraiment faire quelque chose. Moi, j'ai bien hâte de voir le jour où on va proposer quelque chose d'intéressant, quelque chose de radicalement différent de notre système. Moi, je dis radicalement différent. C'est pas si radical que ça de proposer quelque chose qui ressemblerait à Singapour ou la Suisse. C'est quelque chose qui est la norme ailleurs. Je veux dire, on parle pas d'un système totalement à free market. Là, on parle d'un système qui est mixte public-privé, puis qui pourrait justement, avec la compétition des deux, donner un service qui au moins a de l'allure.
Mais là, faudrait peut-être faire un parallèle avec le système de Kansas City. C'est comme le flavor of the month. Non, non, mais je fais une blague à part avec l'amphithéâtre. On a donné Kansas City comme étant un modèle.
Ouais.
Juste une question. Y avait-tu des détails sur les montants qu'il était prélevé à Singapour sur les payes? Ou...
Oui, il y avait des détails là-dessus. Attends un peu que j'aille...
Ça, dans le fond, aussitôt qu'on prélève de l'impôt ici, il y en a 40% que ça va à santé. Là, tu divises le montant à peu près en deux de ce que tu es prélevé au complet. Tu le prends, tu regardes ton chiffre provincial, tu enlèves 40%, ça va à santé. On peut voir de même.
Je pense que si ma mémoire est bonne, il prélevait comme 20%. Mais le 20%, c'est pas juste pour la santé, c'est pour la santé et la retraite.
Okay.
L'employeur fournit un autre 13% par-dessus ça.
Ah, mais c'est quand même assez étatique, quand même. C'est des gros montants.
Oui. Ça revient que ça permet d'accumuler à la personne d'accumuler un assez bon montant dans son compte santé au fil des années.
Okay. Est-ce que la caisse personnelle peut être épuisée? Si oui, il arrive quoi?
Oui, c'est là qu'il y a d'autres volets dans le système de Singapour qui sont intéressants. Premièrement, il y a un deuxième volet. Le volet compte santé, il appelle ça Medisave. Attends un peu, je vais aller chercher l'article parce que là, malheureusement, vous m'avez pris de court un petit peu, puis là, j'ai pas eu le temps de tout préparer mes affaires.
Ah ben.
Donnez-moi une petite seconde.
Mais en même temps que tu cherches...
Notre système de santé, on le connaît. Là. C'est pour ça qu'il faut entendre ce qui se fait ailleurs.
Mais en même temps que notre ami Philippe regarde, je vois que pour les chiffres, là, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais Singapour, puis on peut-tu comparer ça? » Quand on regarde l'âge médian, et on est à 39 au niveau des deux. Hein, le Canada puis Singapour, c'est 39 ans l'âge médian. Le PIB, bon, c'est sûr qu'il est un petit peu plus supérieur à Singapour. On regarde l'espérance de vie, c'est pas mal la même, tu sais. On pourrait dire, mais c'est ça, ils sont plus jeunes, ils sont plus vieux, mais on voit que c'est, il y a beaucoup de choses qui se comparent, là. Puis Singapour, ben c'est un, tu sais, je veux dire, c'est très populeux, mais c'est quand même incomparable qui se vaut la peine.
Mmh. C'est tout le monde là, ou ceux qui sont pauvres, ils ont aucun prélèvement ou?
Ben là, ce qui arrive, c'est que ceux qui sont très pauvres ou ceux qui n'ont pas d'emploi, eux autres sont pris en charge par l'État dans les hôpitaux publics.
Ok.
Ok. Alors, ce qui arrive à Singapour, c'est Singapour, tout d'abord, ils ont un réseau d'hôpitaux puis un réseau de cliniques. La plupart des cliniques sont privées. Okay. Puis la plupart des hôpitaux sont publics.
OK.
OK. Là, justement, les prestations, tous les employés versent 20% de leur salaire à ce qu'ils appellent le Central Provident Fund ou le CPF. Ça, c'est justement, c'est un fonds qui sert autant pour la retraite que pour la santé. Il y a environ 6 à 8 de cet argent-là. Les employés déposent 20 % de leur salaire, puis les employeurs rajoutent 13 % par-dessus ça.
OK.
Puis il y a environ 6 à 8 de cet argent-là qui va dans le Medisave.
OK.
Qui est le compte santé.
OK.
Ensuite de ça, les Singapouriens ont le choix aussi d'avoir quelque chose qui s'appelle MediShield. C'est une assurance, mais à déductible très élevé pour les maladies qu'on dit catastrophiques. En d'autres mots, si tu as juste un petit bobo puis que tu te casses un bras, tu te casses une jambe, tu vas payer avec ton compte MediSave. Si t'attrapes un cancer, ben là, c'est le MediShield qui va embarquer.
OK.
OK. Le MediShield, c'est une assurance qui va couvrir pour vraiment les affaires qui coûtent très, très cher à traiter. Puis que là, à ce moment-là, la plupart des gens finiraient par manquer d'argent dans leur MediSave s'il fallait qu'ils payent de ça à partir de leur compte santé. Alors, là, ils ont ce niveau-là de protection qui est ajouté à ça. Ensuite de ça, ils ont le MediFund, qui est justement le fonds d'assistance aux démunis. Ce fonds d'assistance-là, il est donné de façon ponctuelle, selon les besoins. Chaque fois que quelqu'un a besoin de soins de santé, qui se retrouve qu'ils n'ont pas les moyens de les payer, soit avec leur MediSave ou leur MediShield, à ce moment-là, l'État évalue justement leurs moyens. Puis les aide dans ce sens-là.
Okay.
Alors, ça qui fait que, justement, leur système est universel. Leur système ne laisse pas personne laisser pour compte. Peu importe les moyens que tu as accès à des soins médicaux. Tu n'auras peut-être pas accès à une chambre privée dans un hôpital, mais tu vas avoir accès à des soins de base au moins.
OK. Ça, d'après toi, là, dans les ceux que tu as analysés, toi, c'est-tu le Singapour qui t'apprécie le plus? Ou, hein?
Moi, en réalité, oui, ma préférence est marquée pour Singapour, puis je vais te dire pourquoi.
Ouais.
Parce que, justement, le système, étant donné qu'il donne les choix dans les mains du patient, le patient prend des décisions plus éclairées par rapport à ses choix de santé.
Mm-hmm.
Puis pas seulement au niveau des soins, mais au niveau de la façon qu'il traite son propre corps. Par exemple, le taux de fumeur puis le taux d'obésité à Singapour est relativement très bas. Mmh. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre plus soin d'eux-mêmes. Ils réalisent combien ça coûte, leur soin de santé.
Mmh.
Ils voient le montant baisser dans leur compte santé quand ils ont besoin, justement, d'avoir de se faire soigner. Ils voient les montants baisser, puis là, ils disent, il faut que je traite mon corps un petit peu de façon plus responsable.
J'ai une question. Par contre, si le compte santé est vide, j'ai M. Ménard qui me pose cette question-là, qu'est-ce qui va se passer?
Bien là, si le compte santé est vide, bien effectivement, soit tu payes de ta poche si tu as les moyens, sinon, l'État va te venir en aide avec le MediFund.
OK, fait que là tu changes parce qu'il dit tu sais en fait il y en a qui on le sait il y a des gens qui nécessitent beaucoup plus de soins donc là c'est pas trop long que le compte il peut se retrouver à sec là.
Ben là c'est je veux dire c'est définitivement une possibilité. Puis là, c'est justement là que le Medifund devient utile.
Okay.
Le Medifund, c'est vraiment pour les gens qui sont dans le besoin.
Ouais.
Si tu ramasses vraiment, de toute façon, si on prend justement le cas d'une maladie catastrophique, faut pas oublier que le compte santé ne sert pas pour les maladies catastrophiques. Les maladies catastrophiques sont couvertes par l'assurance MediShield. Mais l'assurance MediShield est optionnelle. Ça fait que si tu as ton assurance MediShield, puis en fait, si j'habitais à Singapour, moi, c'est sûr que je l'aurais.
Ouais.
L'assurance MediShield, en passant, tu peux payer les prestations sur ton compte MediSave.
OK.
Alors, tu peux payer ton assurance catastrophique, tu peux le payer avec ton compte de ton compte santé. Tu n'es même pas obligé de débourser ton argent de ta poche pour payer pour.
OK.
OK. Puis même à chaque fois, quand tu fais appel aux soins d'un médecin ou de quoi que ce soit, tu as le choix de payer avec ton compte santé ou de payer de ta poche aussi.
OK.
Parce que tu peux le faire de ta poche aussi, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Mais justement, il n'y a jamais personne dans ce système-là qui est laissé pour compte, justement, parce que il couvre pour toutes les situations.
Mm-hmm.
Alors, si vraiment tu es dans le besoin, l'État va te venir en aide. Mais seulement si et seulement si tu es dans le besoin.
Ben, ça fait un peu un lien avec ta citation sur ton site quand tu dis le gouvernement, il n'est pas le problème, en fait, il est la solution. Il n'est pas la solution, mais
il est le problème.
Il est le problème.
Oui, ben en réalité, ouais, ça c'est une citation de Ronald
ouais,
Reagan
c'est ça.
Qui disait que le l'État n'est pas la solution à nos problèmes.
Non, c'est ça.
L'État est le problème. Dans la plupart des cas, c'est vrai, je vous dirais.
Mais la façon Singapour a de l'allure
a de
pour
l'allure.
Un programme qui est quand même en partie gouvernemental.
Ouais.
Moi, j'adore la façon de Singapour de procéder de Singapour. Moi, j'avouerais que dans le système de Singapour, je mettrais peut-être un petit peu moins. Ben, en réalité, parce qu'ils ont des hôpitaux publics, oui, sauf que ces hôpitaux publics sont gérés indépendamment. Puis ils doivent faire compétition au privé, donc ils ont une gestion très, très serrée comparativement, par exemple, aux hôpitaux ici, qui n'ont aucun incitatif à gérer serré, qu'en réalité, les patients sont plus un fardeau
ouais.
qu'une source de revenus.
Exact.
Tandis que c'est le contraire à Singapour,
ouais, ouais.
même pour un hôpital de public, le patient qui vient se faire soigner là, c'est lui qui donne le budget, c'est pas nécessairement l'État tant que ça.
Mais là, j'espère qu'un député a écouté le discours de ce soir où je t'invite peut-être à aller déposer ça. Justement, ce soir, on parlait de des commissions parlementaires. Donc, je sais que ton dossier a été consulté sur la blogosphère, mais il faudrait que tu synthétises ça dans un seul document et tu leur déposes ça. Moi, je l'ai fait, l'analyse. De trois systèmes, puis ma recommandation, le système de Singapour, non?
Oui, oui, ouais, non, mais justement, puisque vous en parlez, j'ai déjà commencé à avoir des discussions avec certains membres du RLQ là-dessus, parce que j'ai proposé que le RLQ offre un papier de position sur la santé pour concurrencer le CAQ. Alors, je vais justement participer à ce papier-là.
Ah, ben, c'est bon.
Alors, cet été, on va justement faire un petit sondage pour les membres du RLQ. Alors, surveillez ça sur le site du RLQ. On va avoir ça très bientôt.
Ah, ben, c'est bon, ça répond à l'appel de Steve,
ben oui,
ça.
Ben oui.
Et, on va faire un sondage pour justement déterminer un petit peu les grandes orientations que devrait prendre le papier. On va demander l'avis du monde.
C'est bien.
Pour savoir, pour qu'on, justement, on puisse faire quelque chose qui est très représentatif de notre membership. Puis, par la suite, on va produire un rapport à partir de là. Puis, on va sortir ça probablement cet automne. On va publier un papier là-dessus. Puis, je sais d'ailleurs que la commission politique de l'ADQ sera probablement très intéressé par ça.
Ah, ben
on va espérer qu'ils vont
avoir une
oreille puis
ouais.
Regarder sérieusement nos suggestions.
Ben merci beaucoup Philippe. Désolé, on n'aura pas le temps de passer à travers tous tes autres billets, mais je pense qu'on en a traité un bon et je pense que c'était la pièce maîtresse. Puis c'est sûr qu'on va se reparler dans le cadre de l'émission. Puis si c'est pas dans le cadre de l'émission, ça va être à l'extérieur parce que on est maintenant amis Facebook. Fait qu'on se partage comme ça des discussions à droite et à gauche. Et j'invite surtout les gens à consulter ton site internet parce que justement on avait d'autres billets peut-être qu'on voulait couvrir, mais j'invite les gens à les lire, à les consulter, ça vaut toujours la peine. Le compte rendu radiophonique peut être bon là, mais une bonne lecture là, attentive là, ça se fait très bien ça à toute heure de la journée. Donc allez coucher les petits puis allez consulter le www.minarchisteqc.com. Donc, ouais, les gens.
C'est ça. Puis, si vous voulez en savoir plus, justement, sur mon dossier santé, ben, vous avez juste à taper dans la recherche dossier santé.
Parfait.
Puis, vous allez trouver tous les articles là-dessus. J'en ai plusieurs, d'ailleurs. J'en ai plusieurs sur la santé.
Oui.
Qui sont pas nécessairement, qui sont connexes, mais qui font pas nécessairement de mon dossier original.
Ouais.
Alors, puis, là-dedans aussi, tu sais, on n'est pas rentré dans l'entrevue dans toutes les statistiques, mais il y a toutes des statistiques comparatives entre les différents modèles que je présente puis le système canadien. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez trouver très, très intéressant.
Ah non, faut que les gens aient consulté ça, là. Surtout ceux à qui on a suscité l'intérêt, là. Allez définitivement, allez consulter ça. Hey, nous, on va te souhaiter une bonne été.
Ah, pareillement.
Parce qu'il nous reste deux émissions, donc on te salue bien et merci de ta contribution cette année dans ce projet qui est connaître-la-suite.com. Et comme j'ai dit, en espérant de te revoir.
Ben, ça me fait toujours plaisir, les gars. N'importe quand vous voulez m'avoir, vous avez juste à me laisser savoir.
Parfait. OK, merci.
OK,
salut,
bonsoir.
Bye. Chic type, comme je dis à toutes les fois, on a des chic types. Allez, on fait une petite pause vite.
Ouais.
On en revient pour un petit stretch de 10 minutes. Vous êtes à l'émission Connaître la suite sur les ondes du XM156.
Matches what your eyes can do.
on est de retour pour ce dernier blitz de 11 minutes précisément. Donc,
Eh oui.
Pauvre Danny, toujours obligé de faire ça vite.
Ouais, c'est fâché un peu parce que je suis dans le jus bien raide dans ma vie professionnelle. Puis là, il me reste plus de temps quand je prépare des longs dossiers. je vais vous parler de quelque chose. Média. Ceux qui savent un peu, là, c'est mon dada, suivre les médias un peu. Suivre les gouvernements aussi. Là. Donc, j'ai un site réseauantispin.com si ça vous intéresse. Il y a un cas qui touche mon domaine professionnel ces temps-ci. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une nouvelle souche de bactéries jamais découverte auparavant qui a causé des morts et des malades en Europe. Et là, c'est une autre forme de la bactérie E. coli. Donc, quand on entend parler de la maladie du hamburger, là, c'est la bactérie E. coli, Escherichia coli. Et il y a différents sérotypes. Là,
c'est ce qu'on avait trouvé en Ontario, dans la ville
Walkerton. Exact, qui avait contaminé l'eau potable là-bas. Et le spin courant, là, justement, pour dire que la droite, c'est de la chenoute, là, c'est qu'ils mettent ça sur la faute de Mike Harris.
Ah ouais.
C'est Mike Harris qui allait prendre. C'est le premier ministre qui allait chercher des échantillons d'eau. Hein. Okay. Tout le monde sait ça. Ouais, c'est le premier ministre.
Toujours la faute de la droite là. Dans ces catastrophes-là.
C'est ça. Mais ils disent tout, c'est à cause des coupeurs sauvages de Mike Harris. Ouais. Mais l'histoire, c'est que dans cette ville-là, Walkerton, c'était deux frères qui s'occupaient de prendre les échantillons de chlore et les deux clowns. Ils restaient les deux pattes sur leur bureau. Ils faisaient semblant qu'ils avaient été prendre l'échantillon, qu'ils avaient fait une test de chlore, puis ils marquaient OK sur le formulaire. Mais c'était pas vrai. Ils marquaient juste le OK sur leur formulaire. Il n'y avait jamais un patron qui allait voir si c'est vrai qu'il a fait le test. T'sais. Fait qu'ils marquaient OK, en disant il n'y aura pas de problème. À un moment donné, la pompe à chlore ne marchait plus. C'était quand même écrit OK, puis bang, ça a fait des morts. Et là, c'est une autre souche de E. coli inconnue. Donc, les chercheurs sont en train d'étudier son génome. Hein. Vu que pour voir là, pourquoi que c'est aussi virulent puis tout ça. Et là, présentement, là, en tout cas, dernière nouvelle que j'ai, là, c'est 18 morts en Europe, 17 en Allemagne, 1 en Suède, présentement. Donc, ça ferait vraiment des dommages. Et présentement, qu'est-ce que ça a fait? On est dans une émission de liberté et ouais. Responsabilité individuelle. C'est quoi qui arrive? Il y a deux choses que je veux vous parler. Donc,
fais-nous un lien.
L'aspect média et l'aspect politique. Premièrement, l'aspect un peu spin qui peut causer, là, et c'est arrivé souvent dans l'histoire des dernières années, là, c'est d'identifier un coupable avant d'avoir la preuve.
OK. Donc, sauter aux conclusions.
Ouais, exact. Et là, le réflexe que les pays ont, c'est de dire ça vient d'ailleurs, ça vient pas de notre pays.
Okay, c'est dans la cour du voisin.
C'est du stock importé. Qui cause les doutes. Nous autres, notre système de qualité, là, il est trop parfait. Notre système gouvernemental de suivi, là, il est parfait. Ça peut pas être chez nous.
Comme nous autres, ça serait les Américains par défaut.
Ouais.
Tu sais, la journée qu'on aura ça, c'est à cause des Américains.
Les Américains, ils vont dire que c'est le Canada. Ouais. OK? Comme un exemple, il y avait eu un cas de vache folle en Alberta. Les États-Unis ont fermé les frontières, mais quand on a étudié le cas, c'est ce veau-là ou cette vache-là venait des États-Unis.
Ouais.
C'est juste qu'elle était rendue dans un élevage canadien. Donc, est-ce que c'était les États-Unis qui a eu... bon, tout ça. C'est un réflexe très fréquent. Réflexe médiatique aussi de prendre la première hypothèse, la répéter, mais en oubliant trop de la mettre au conditionnel. Et là, ça devient le premier réflexe des gens, c'est de dire « Oh oui, ça vient de telle place. »
Ah, c'est un état de fait, là.
C'est un état de fait. Parce que les premiers articles vont être avec au conditionnel. Ceux qui suivent ou qui le reprennent l'article ne le font pas. Et là, ça devient une vérité. Spin... Il y a des conséquences assez graves.
Puis là, c'est des gens comme mon père qui disent « Ah, mais je l'ai entendu à la radio, puis c'était vrai. C'est un fait. »
C'est ça. Là, il a été rapporté, mais après ça, si tu n'as pas entendu la mise à jour,
ben oui.
Ou que le média, ça l'a intéressé sur le coup, mais il ne donne pas les mises à jour plus tard. Mmh. Exemple, Richard Étude qui fait un article qui dit « Ah, il y a un républicain qui a fait ça. » 2-3 jours après, il prouve que c'est pas un républicain, mais Richard Étude revient pas avec l'histoire pour dire non, c'était pas vrai finalement. T'sais, bon, fait que ça arrive dans ce domaine-là aussi. Et là, qu'est-ce qui est arrivé là-bas, puis c'est arrivé dans d'autres cas, c'est que l'Allemagne a décidé de trouver un coupable. Donc l'Allemagne a décidé que c'était des concombres qui provenaient d'Espagne. Non, ça peut pas être des concombres allemands. Là. Notre système est trop parfait. Donc là, il se ramasse, puis là, ça a été l'histoire, c'est que ce serait des concombres espagnol. Mais là, au fur et à mesure, si on continue à suivre l'histoire, finalement, là, c'est pas nécessairement ça. Ils savent plus, finalement. Mais là, le mal est fait, là. C'est eux qui n'ont pas suivi cette nouvelle-là. Moi, je le suis, c'est mon domaine. OK? Je suis spécialisé là-dedans.
Ben oui, toi, t'as un intérêt particulier.
J'ai même un magazine là-dessus ben ouais. que je suis en train de développer, qui n'est pas à mon goût encore, mais qui s'en vient. Un magazine qui suit toute la salubrité alimentaire. De juste à passer par Facebook, vous allez trouver dessus. C'est de voir comment que les accusations-là peuvent avoir des répercussions graves. Un autre cas qui est arrivé à un moment donné, un cas aussi de salmonelle, donc qui est une bactérie. Les gens pensent que salmonelle égale poulet, là, c'est pas vrai. Salmonelle égale excrément. On s'en fout de l'animal. Même nous, on peut avoir de la salmonelle de façon sans jamais être malade. On appelle ça un porteur sain. Okay? Donc, ça peut arriver. Donc, il y avait eu un cas aux États-Unis. Et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'ils ont dit, c'est des tomates. Parce que, on arrose avec... on peut mettre de l'engrais du fumier, dans le fond, dans les champs. Donc, il peut y avoir transmission comme ça aux tomates. Il peut y avoir de l'eau contaminée par la salmonelle qui peut avoir servi à l'arrosage et tout ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ils ont décidé que t'as des tomates. Donc là, la rumeur est partie partout. Et là, ça a fait en sorte que même au Canada, McDonald's et Subway ont arrêté pendant un bout de temps de mettre des tomates dans les sandwichs qu'il y en avait. Parce qu'ils achetaient leurs tomates américaines. OK? Donc, ça a eu un impact. Là. C'était écrit, là, quand tu rentrais chez McDo, je ne sais pas si tu avais remarqué dans le temps, là, tu rentres chez McDo, c'était écrit « Nous ne savons pas de tomates présentement. » Il y a un cas de salmonelle dans les tomates. Ça. Et c'était un cas, encore une fois, parce que les médias et peut-être les gouvernements ont été trop vite, ou soit que le gouvernement a donné la bonne réponse, les médias l'ont interprété autrement. Et ça a donné, en fait, que après étude, ils se sont rendus compte que c'était même pas les tomates le problème qui avait rendu les gens malades, c'était des jalapenos.
Oh!
Qui étaient dans le même restaurant d'origine.
Mais dans ce domaine-là, c'est pas de dire que dans le doute, on s'abstient. Je sais pas, là, je pose la question comme ça. Là, tu sais.
Moi, je me dis, là-dessus, ce que je veux en venir, c'est que un moment donné, là on est dans le domaine de la science.
Mm.
OK? Le domaine de la science, là, c'est le fun de la science. Tu peux prouver ton point. Tu as juste à attendre quelques jours. Faire peut-être une espèce d'alerte qui va dire « Faites attention à ci, à ça. » On n'a pas encore trouvé le problème. Ouais. Pas arriver puis pointer quelque chose automatiquement et faire en sorte que ça crée une panique. Donc, ensuite, les médias devraient faire attention avant de reproduire tout ça, de dire « Attendez un petit peu, là. Il faudrait peut-être attendre un peu. » Donc, ça arrive un petit peu trop souvent, cet aspect-là. Donc là, il est où le problème entre les deux? Il est difficile à trouver. OK? Aux États-Unis, entre autres, par contre, c'est que, comparativement un peu à ici, là, c'est que les informations, ils sont capables de les avoir en bout de ligne, puis ici, c'est un petit peu plus difficile. Okay? Le suivi là, de tel rappel d'aliments, là, souvent, là, on n'a pas vraiment de nouvelles de ce qui s'est passé. Mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont là-dedans, okay? Qui vérifient beaucoup, qui essaient de trouver la source. Et d'après toi, c'est dû à quoi? Comment ça que les États-Unis ont été capables d'avoir plus d'informations sur les histoires comme ça? Pour avoir la vraie histoire plutôt que d'avoir que des faits à peu près botchés et tout ça. Ça te dit rien?
La loi, je sais pas.
La fin, c'est que eux, je dis pas que je suis pour ça, là, mais il y a un système aux États-Unis qui fait que si quelqu'un fait une erreur, là, tu vas être poursuivi assez rapidement.
Ah, okay. Système de poursuite.
Donc là, c'est le système de poursuite qui va faire en sorte que dans un système où est-ce que ou est-ce qu'il n'y a pas de ici, tu sais, beaucoup, là, trouver qui est coupable de quoi, là, c'est super ouais. difficile. Là-bas, c'est, on va le trouver parce que tu vas falloir que tu dédommages le monde. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, les histoires, on les sait. Et là-bas, les poursuites sont assez spectaculaires lorsqu'il y a un cas de contamination. Parce que eux, presque automatiquement, contamination égale négligence. Et une négligence qui cause une maladie ou la mort, ben ça peut être très payant dans les tribunaux. Donc, c'est un système qui est un petit peu plus libre là-bas, mais les coupables
les conséquences. Payent
le prix. Mmh. Exactement. Donc, est-ce qu'un système comme ça pourrait faire en sorte que ben, le monde font plus attention quand ils savent qu'ils vont payer le prix par leur façon de travailler qui est bizarre?
T'as plus de liberté, ça. Mais t'as moins de responsabilité. Ouais. T'as plus de responsabilité, mais t'as moins de liberté.
Ici?
Là-bas?
Ben, t'as les deux.
T'as les deux, en fait, mais ce que je voulais
t'es
dire...
T'es libre, mais tu vas payer pour.
C'est ça, t'es responsable pour, de ta ça. Liberté.
Là-bas. Donc, ça serait peut-être un aspect à surveiller ces temps-ci. Donc, si vous entendez dire qu'il y a des concombres contaminés, là, ben, continuez à suivre l'histoire parce que vous n'avez peut-être pas toute la vérité encore. Voilà.
Mais c'est une belle leçon de vie. Ça veut dire il ne faut rien prendre pour du cash. Et surtout pas quand ça vient des médias.
C'est ça. Puis ça
peut et en santé alimentaire.
Exact. Puis de la liberté et de la responsabilité, ça a peut-être du bon une fois de temps en temps.
On va souhaiter...
plus souvent qu'on pense.
Oui, bien tout à fait. Excusez. On va souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Suivez l'action sur notre site internet connaître-la-suite.com. Il ne reste plus que 2 émissions. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'en vient la semaine prochaine, ben venez sur le site parce qu'on travaille sur 2 bonnes dernières émissions. Et,
on ne dira pas. Avec ce qui est arrivé ce soir.
Oui, c'est ça. On ne prendra pas trop d'engagement. Donc, en espérant que vous n'êtes pas trop déçus de votre soirée, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes du XM156.
Bye. I did my best to notice when the call came down.